Judaïka. Judaïka.
Auditrices, auditeurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 19 avril 2021. Vous êtes bien sûr Radio Judaïka sur le 90.2 FM ou sur notre site internet peut-être radiojudaïka.be. Et sachez que vous pourrez nous retrouver dès la fin de l'émission sur notre chaîne Spotify. Il est 20h. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs pendant 90 minutes. Car ce soir, on joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse, la tête dans le paquet, et
reprise,
goal, goal pour la
Belgique. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, mais surtout, vous êtes un salaud.
Goal, goal,
goal,
goal,
et de salaud, il en sera aussi question ce soir, hein. Les 12 salopards qui ont fait sécession hier, on aura le temps d'en parler, on aura le temps de débattre avec qui, avec moi ce soir, bien sûr pour son grand retour, parce que ça fait un certain temps qu'on l'avait pas eu à l'ombre avec nous. Il nous revient en leader maximo de Jupiler Pro League, mais rassurez-vous, on l'a pas réduit de moitié, on l'a pas coupé en deux, pas comme les points de son club de cœur au classement, le FC Bruges bien sûr. Bonsoir Didier Cohn.
Bonsoir Samuel, bonsoir Blaise, bonsoir Henri, quel bonheur que de vous retrouver, c'est cool.
Ah, ça me fait aussi très plaisir.
Ah. Un heureux en plus.
Plus tôt dans la saison, il se plaignait de la durée des matchs, mais à mon avis, c'est surtout de la durée du championnat qui devrait maintenant se plaindre, parce qu'encore quelques journées, son club aurait sans nul doute pu recoller au basque du leader, hein. Eh ben, ça tombe bien d'ailleurs, il reste encore 6 journées de play-off, alors qui sait jusqu'où Anderlecht va monter. Bonsoir, Henri Daniel.
Bonsoir Sam, bonsoir Didier, bonsoir Blaise. Vous sentez le souffle?
Absolument.
Vous sentez le souffle, moi je le sens.
Vous allez te poser la même question, mais...
Son club a bizarrement été oublié au moment des invitations pour la Super League. pourtant, c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions. Alors ok, c'était en passant sur le corps de Glenn Toran, du CSKA Moscou, des Rangers ou du club de Bruges. Et il a quand même gagné, hein, contrairement au club que je supporte. Alors bonsoir Blaise van der Linden.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Et depuis le début de la journée, j'attends de débattre avec vous sur l'actualité brûlante.
Yes.
Les salopards l'inspirent.
Rassure-moi, tu t'es réveillé quand même ce matin.
Oui.
Alors au programme ce soir, on va commencer par l'épilogue de la phase classique de Jupiler Pro League. On parlera bien entendu des matchs du week-end, mais aussi des échéances à venir avec le début des play-offs. On vous fera part également de notre 11 type de la saison de Jupiler Pro League. Ensuite, on parlera bien entendu de la nouvelle qui a chamboulé le monde du football aujourd'hui et même au-delà du monde du football. Ça fait 24 heures, bien sûr, que le monde du football est en effervescence. C'est en pourquoi ? Parce qu'il y a eu une création de la Super League de football à l'initiative de, je le disais, les 12 mercenaires, peut-être plus correct, du football européen. 12 grands clubs qui ont décidé de faire sécession, ou en tout cas de mettre une pression dingue sur l'UEFA en menaçant de créer leur propre ligue fermée. On fera ensuite notre traditionnel petit tour d'Europe du football en vous donnant des nouvelles des diables de l'étranger. Il y en a pour qui ça sourit et d'autres pour qui ça grince un peu plus. Et puis on terminera en parlant Formule 1, car avait lieu ce week-end la deuxième manche du championnat du monde de F1 2021 à Imola, l'un des temples de la course automobile. Et on peut dire qu'on a eu droit à une très grande course ce week-end. Sans plus attendre... Et voilà, on l'avait pas entendu. Sans plus attendre, c'est le début de le coup d'envoi. On donne le coup d'envoi et je vous propose de démarrer, bien sûr, avec la Jupiler Pro League. Il y avait du suspense à tous les étages, hein, en D1. Ah, quand je dis tous les étages, c'était...
Pas vraiment.
Non.
Il y avait un seul étage où il n'y avait pas de suspense. En fait.
Non, mais disons que le suspense, je veux dire que les positions n'étaient figées ni pour la qualification au play-off 1, ni pour le play-off 2, ni même pour la relégation. Je vous propose qu'on commence par le play-off 1. Alors les choses, pour rappeler un peu à nos auditeurs où on en était, les choses étaient assez claires avant la journée, puisque le club de Bruges, Genk et l'Antwerp avaient déjà leur billet pour le play-off 1 en poche. Restait à connaître le nom du quatrième qualifié pour le play-off 1, et ça se jouait entre Anderlecht et Ostende. Anderlecht se déplaçait à Saint-Tron, alors qu'Ostende recevait le Cercle de Bruges, sauvé déjà, qui était sous
depuis
la semaine passée. Mm-hmm. Pour les côtiers, la donne était simple, ils devaient l'emporter et espérer dans le même temps qu'Anderlecht perde sur le piégeux synthétique Trudonnais. C'était à Saint-Tron sur cette magnifique pelouse, qui est le fameux synthétique. On va couper le suspense tout de suite, hein. Il n'en aura rien été, puisque les Ostendais n'auront même pas réussi à remplir la moitié de leur contrat en battant le Cercle. Au contraire, ils n'ont pu faire mieux qu'un but partout, en ayant été menés même pendant quasiment toute la deuxième période, et donc en parvenant à égaliser que dans le temps additionnel. Donc dans ces conditions, le match à distance n'a jamais eu vraiment lieu, et les Bruxellois n'ont finalement jamais été inquiets quant à leur qualification en play-off 1, puisque Ostende n'a jamais été en mesure, n'est jamais passé devant, même au classement intermédiaire, on dirait en course cycliste ou course automobile. Mais si Anderlecht s'est qualifié, ils le doivent aussi et surtout à eux-mêmes. Ils ont fait le boulot, même s'ils ont pris le temps pour se mettre à l'abri. Et ils l'ont emporté donc 1-0, un but de Yari Verskaren à la 80e minute. Sur une action.
Aussi qu'un match nul leur suffisait.
Leur suffisait, et même avec la défaite.
Mais c'est pas la philosophie.
Non, mais je veux dire, il y avait moins de pression.
Il y avait moins de pression, oui. C'est
puis ça.
Ils avaient les cartes en main. Et puis Ostende, même en ayant l'oreille sur le résultat d'Ostende, ils n'étaient pas vraiment inquiets. Et c'est grâce à une action de trois des hommes en forme de cette fin de saison, Aitelhadj, Enmecha et Verskaren, que les Mauves ont pu l'emporter. Henri, je vais commencer par toi. Un mot sur le match, la performance de l'équipe. Au-delà, on parlera après de la qualification et des perspectives, mais sur le match...
Que du match, la maîtrise.
La maîtrise, ouais.
Et puis, j'aurais constaté quelque chose, c'est depuis que la composition est stable, les résultats s'enchaînent. Alors, je ne sais pas si c'est
exactement
parce que les résultats s'enchaînent que la composition est stable, mais vraiment... C'est un marqueur fort, quoi.
Depuis qu'il a, comme tu dis, stabilisé cette compo, il a installé Trebel au milieu à côté de Sambi, c'est sur des roulettes, quoi.
Ça ressemble à quelque chose. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, n'en déplaise à Henri, mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il y a eu un fond de jeu depuis 2-3 matchs, effectivement. On a vu Anderlecht qu'on n'avait pas vu depuis des mois.
Bah, on va dire depuis Zult, après la 20e minute, quoi. Depuis la carte rouge à Zult, mais c'est vrai?
Il faut noter qu'Anderlecht, justement, vous disiez les quelques derniers matchs, ça fait 4 victoires consécutives en championnat, ce qui n'était plus arrivé aux Mauves depuis près de 3 ans. La dernière fois, c'était au cours de l'été 2018. Et comme vous l'avez dit, il semble que Vincent Kompany ait trouvé son 11, parce que je regardais, à part un joueur qui a
remplacé...
Non, mais je crois que Cobot était là tout le temps, mais il y a... En défense centrale, il y a eu une suspension, mais à part un joueur, sinon ça a été toujours les mêmes joueurs, Mikhailichenko.
Ah oui, il a joué avec Sardella dans l'axe, effectivement.
Mais sinon, c'est Miazga, Kobot.
Sardella plus là.
Le milieu de terrain, sans doute, ce qui vraiment représente la clé de voûte du système, Sambi, le retour de Trebel, ouais. Et puis Verskaren, soit aligné à côté, soit un petit peu devant, et on l'a dit, les 3 devant, même si Hachimeru est là, c'est peut-être pas c'est peut-être le meilleur complément.
Pas sur les deux, deux derniers matchs, contre l'Inter, il a montré plus. Il avait déjà montré contre l'Union en coupe, donc il était un peu, on va dire, décevant par rapport à lui-même sur les deux derniers matchs. Mais quand même, je trouve qu'il a fait le boulot. Maintenant, si on parle juste du match, j'ai trouvé ça, ils étaient assez confiants. Je trouve assez serein. Je les ai pas vus paniquer non plus.
Ouais.
Donc ça a mis du temps à marquer, mais ça aurait pu marquer en première mi-temps.
C'est ça. Ils auraient pu gagner plus que 1-0.
Il n'y a pas eu de panique non plus. J'ai trouvé assez, assez confiant.
Je suis assez d'accord. J'ai trouvé que c'était.
Mais non, c'était pas une démonstration.
Sur deux, ils contrôlent plus les événements. On a l'impression qu'ils peuvent moins leur arriver de malheur que ce qui pouvait leur arriver en début de saison où ça disjonctait un peu.
On leur a fait une grosse pression avant le sprint final et les trois matchs.
Ouais,
ils ont passé les deux plus gros.
Ouais.
Le troisième, enfin, moi je trouve que le troisième était plus important parce que si tu rates le troisième, les deux d'avant ne servent à rien.
C'est vrai, ils pouvaient se faire éliminer.
Après.
Encore une chance, ils auraient même pu perdre hier, ils auraient quand même été...
Ça, ils ne le savent pas quand ils montent sur le terrain, et je pense que c'est dans la philosophie... Maintenant, si on veut parler de la saison en général...
Ouais, bah oui.
Ça va être court.
moi, je vais vous surprendre, ça, mais je viens avec beaucoup d'humilité. Ça étonne un supporter d'Anderlecht humble. Mais humilité, moi, par rapport à ce qu'on peut faire comme analyse, je veux dire, on a critiqué le process, on a critiqué les 10 dernières minutes, on a critiqué le casting avec des Joule, avec des
Brune Larsen,
ça s'est arrivé en fin de saison, des Vlap et des gens comme ça.
Wellen Reuter.
On a critiqué Company qui était trop peu expérimenté. On a critiqué le fait d'avoir démarré.
À juste titre, oui, je reconnaîtra quand même.
Tout ça, je pense. Mais l'humilité, c'est par rapport au résultat. Il y a rien à faire. On termine troisième du championnat. Enfin, le club termine troisième du championnat. Il a les résultats pour lui.
Oui, parce que
je suis d'accord. Nous, on est là pour vous critiquer. On est amateur de foot et quand c'est pas bon, je le dis. Plusieurs fois, j'étais même inquiet par rapport au jeu développé. C'était pauvre, c'était sans âme, c'était sans engagement, je dirais, sans motivation. En tout cas, donc moi, je suis assez humble par rapport au résultat. Je dis, le football, c'est quand même finalement le résultat.
Oui, mais d'un autre côté, je m'excuse d'intervenir comme ça de manière aussi. J'ai envie de dire. Après, on retient que le résultat. Et je discutais de ça avec quelqu'un pas plus tard que cet après-midi en disant, parce qu'on parlait, on évoquera probablement le départ de Mourinho de Tottenham, et on disait finalement, moi je déteste Mourinho, c'est un secret pour personne, enfin, je déteste Mourinho, je déteste le système Mourinho. Hein, mettre le but, c'est pas spectaculaire. Moi, je vais le dire comme je le pense, je m'emmerde quand je regarde un match coaché par Mourinho. Et finalement, le supporter, il ne retient que, on a gagné tel championnat, on a gagné, et je comprends parfaitement. D'un autre côté, et je dirais la même chose pour Bruges, parce que moi je suis supporter de Bruges, bien sûr, ça n'a échappé à personne. Mais je ne suis pas contre les
même,
autres équipes.
Même en bleu et noir. Genre.
Mais ce que je veux dire, c'est que Bruges mis à part, le deuxième et le troisième, si tu regardes un petit peu, c'est, je crois que c'est, vous avez combien, 56 points?
58.
58.
Oui, on va faire, je vais juste.
58 sur 100.
Ouais, c'est une catastrophe.
Sur 102. Donc je veux dire, on est troisième du championnat avec un pourcentage, je veux dire, digne. Il faut remettre.
Mais partout, à part Bruges, il n'y a personne qui a pris les points.
Même Bruges avec telle avance avec si peu de points, c'est rare.
Tout à fait. Mais je veux dire, c'est un championnat tout à fait bizarre cette année. On dit Bruges est au-dessus du lot. Oui, probablement. Mais au-dessus de quel lot?
Il est déjà moins au-dessus de son propre lot de l'année d'avant, par exemple.
On est d'accord. On est d'accord.
Et après, on nous dit qu'on veut pas la Beneligue et que ça servira à rien pour les clubs belges, mais.
Ça ne servira. La Beneligue ne servira que à remplir les mannes et on l'évoquera probablement avec la Super League. Mais, je pense que les petits clubs, ça va être une très mauvaise nouvelle pour eux s'il y a une Beneligue, parce que ils n'ont aucune chance d'être tirés vers le haut. Aucune. S'il n'y a pas des Bruges, des Anderlecht, des Standard, les
Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant il faut tirer les gros vers le haut. Et c'est ça le problème.
Moi, ce que je voulais dire par
il y a les Coupes d'Europe pour ça.
Ouais. Ce que je voulais dire par mon propos, c'est que nous, les amateurs, dans le sens aimer ceux qui aiment le foot, on s'en fout de nous. Parce que les résultats, ça ouvre la porte à la Coupe d'Europe, à l'argent qui rentre, à des budgets plus conséquents, etc. Et donc, Company a été engagé pour ça. Donc il a des patrons à qui il doit rendre des comptes. Et les résultats, ça passe par les résultats. Donc mais ce côté-là, je veux dire, tous nos débats, c'est. Évidemment, on adore ça. On adore débattre, on adore analyser avec nos compétences ou juste notre sensibilité. Et effectivement, il y a plein de fois sur la saison, c'est super décevant. Quoi. La saison globale d'Anderlecht en termes de football. C'est décevant par rapport à ce qu'il pourrait faire.
Moi, je suis pressé d'être la saison prochaine. Je lisais ça, je ne sais pas si je te l'avais dit, Samuel, mais la semaine dernière, sous couvert d'anonymat, il y a un Brugeois à la sortie du match contre Anderlecht qui a dit l'année prochaine, il faudra compter avec Anderlecht. C'est une très, très belle équipe. Et je suis convaincu de cela.
Mais moi,
je suis convaincu que le Standard aussi a retrouvé un fond de jeu. Genk, n'en parlons
pas. Et combien de temps pour arriver à ce résultat?
Je trouve quand même
Compagnie avait demandé 2 ans. Ouais, en avance sur son temps.
On a été critique, on a été dur à l'égard de Compagnie. On se disait, moi le premier, je disais, il se rend peut-être pas compte que les joueurs qu'il a ont pas le talent pour faire ce que lui leur demande. Ça prouve que quand on n'est pas dans le vestiaire et à l'entraînement tous les jours, on n'y connaît pas grand chose.
Mais peut-être qu'il a revu ça à la baisse, j'ai envie de dire.
Et pourtant, je trouve qu'ils ont pas baissé de. Ils restent
niveau de jeu.
Ouais, non, c'est ça. Ils sont restés sur leur base, sur les principes qu'il a voulu leur inculquer. J'ai trouvé qu'il y avait un nombre assez remarquable de jeux à une touche de balle au milieu du terrain avec Sambi Nelmecha, par exemple, qui est là en appui, qui remet rapidement, et ça jouait plutôt bien.
Et surtout,
sorti aussi au pied.
Ce week-end, on a souvent tendance, à juste titre, à critiquer le synthétique, mais ce week-end, j'ai vraiment l'impression que ce synthétique leur a servi dans les touches en une balle, comme tu dis, le jeu en une touche, et vraiment, c'était super fluide, et j'ai même l'impression plus fluide que sur de l'herbe, parce que ça allait moins vite, et bon, après, c'est peut-être Saint-Tron aussi qui était complètement perdu. Ça, c'est
pas qu'il y avait rien à
alors, exactement. Je vais tirer ma casquette, je vais remettre mon écharpe mauvais blanc. Putain, c'est bon de terminer troisième quand même. on y croit, les gars, Champions League, hein, c'est ça l'objectif maintenant, clairement.
Parce que, c'est vrai, on va y venir.
Et franchement, c'est mérité, quoi.
Avant la journée.
Franchement.
Non, mais quand même.
Donc, quand on voit les quatre premiers, c'est top.
C'est vrai que les quatre premiers, ça c'est.
Bon, l'ordre me plaît pas, mais les quatre premiers, pas mal.
Parce que, avec cette dernière journée, Anderlecht s'est même offert
On a deux entraîneurs dans les quatre premiers, hein.
C'est vrai. Anderlecht s'est même offert le luxe de shipper la troisième place à Genk, et ce grâce à la victoire de l'Antwerp face à Genk 3-2 samedi. D'ailleurs,
non, vous avez trois entraîneurs dans les quatre premiers.
Oui, mais de cette saison-ci,
hein. D'accord.
C'est vrai qu'il y en a qu'un, il y a troisième.
D'ailleurs, Genk a perdu assez gros. Enfin, on verra ça, mais puisque dans le match contre l'Antwerp, il menait 1-2 jusqu'à la 90e minute quasiment, avant que Mbokani n'égalise et que Batu Binsika n'offre la victoire au Great Hold dans le temps additionnel.
J'ai pas bien compris le nom.
C'est le seul français de l'histoire.
Ne me force pas.
Donc moi, j'aurais quand même dire un truc, jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, on ne dit pas de mal de Genk.
On dit rien. Non.
Moi, je suis supporter de Genk à fond, parce que si Genk se qualifie, gagne la Coupe de Belgique, les quatre premiers sont d'office qualifiés. Hein.
Écoute, je reste neutre.
Non, moi
je,
pas.
Moi, je sais bien. Allez, je serais même rouge pour une petite pensée à Steve. Pour Steve. Ouais. Mais c'est vrai que grâce à cette victoire, du coup, et la défaite de Genk, le classement est très serré entre les deuxième, troisième, quatrième. Le club, est largement en tête.
Il a dit le cercle.
Pas grave, moi ça me dérange pas du tout. Sûrement que c'est Bruges.
Il compte 76 points.
Remarque, on a deux chances d'être champion.
Après division des points, puisque comme vous le savez, on divise les points obtenus lors de la phase classique.
Oui, je voudrais rassurer nos auditeurs. Bruges a 8 points d'avance après avoir divisé.
Après, c'est ça.
Ça pourrait paraître bizarre, mais c'est la vérité.
Et d'ailleurs, c'est un nouveau record, puisque depuis que le système des play-offs a été mis en place, aucune équipe n'avait compté 8 points d'avance à la fin de la phase classique. Le record précédent, il appartenait déjà à Bruges et à Anderlecht, qui avait compté 6 points d'avance sur le deuxième. Et sachez, petite info que j'ai glanée dans la DH, que tous les leaders à la fin de la phase classique qui comptaient au moins 2 points d'avance sur le deuxième ont toujours été champions.
Donc bon,
ça
se
présente plutôt pas mal. Mais cela dit,
les records sont faits pour être battus.
D'une part,
oui, vous sentez le souffle.
Écoute, moi je serais pas si définitif sur l'attribution du titre. Bon, 8 points, ça fait beaucoup.
C'est un petit play-off. Hein,
voilà, ce que j'allais dire. Avant, c'était 2 points, 10 matchs. Ici, c'est 8 points, 6 matchs.
C'est vrai.
Ça change vraiment la donne.
C'est 2 points, t'es sûr?
Mais
il avait dit qu'avant, une équipe qui comptait 2 points d'avance.
Ah oui, pardon.
Avec 10 matchs.
Je serais des matchs à 2 points.
Non.
C'était en 92.
C'était il y a très longtemps. Ouais.
Non, mais c'est vrai que à quoi on peut penser au niveau des perspectives. Effectivement, Bruges est largement en tête, mais Bruges joue, on l'a tous constaté, ça tourne un peu moins bien, notamment par rapport à février où janvier-février, ils avaient été magnifiques. On pense, et on est sans doute d'accord, que les deux éliminations en coupe de Belgique et en coupe en Ligue Europa, leur ont fait sans doute du mal, parce que on a constaté qu'ils jouaient, ils étaient un petit peu moins souverains, disons, depuis quelques semaines. Et au contraire, je sais pas encore quoi penser des chances de l'Antwerp ou de Genk. Mais il y a une équipe, c'est Anderlecht, qui n'a fait que des bons résultats contre ces trois équipes-là. 15 points sur 18, je vous rappelle. Sur 18 face à ces trois-là.
Mais la seule défaite, c'est Bruges.
Mais si...
Pas maintenant, hein.
Non, c'était... Ils ont gagné contre Bruges il y a 15 jours, ouais.
Ça méritait pas. Le nul aurait été plus logique. Non, mais c'est vrai.
Ça méritait pas?
Mais bon, en tout cas, ils l'ont fait. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait.
Bien sûr. Bah, d'un autre côté, j'ai envie de dire, effectivement, quand tu dis Bruges, c'est plus que c'était. Alors,
je n'irai pas jusque-là, mais disons qu'ils avaient semblé pour moi, il me semblait souverain. Intouchable il y a 2 mois et demi.
Alors, je pense qu'il... Maintenant, il faut voir dans le vestiaire. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, loin s'en faut. Mais j'ai l'impression aussi que Philippe Clément a fait tourner pour ne pas démobiliser des certains joueurs. Donc,
aussi, ouais.
Le 11 de base a souvent changé indépendamment des blessures des uns et des autres pour que tout le monde puisse jouer. Parce qu'ils n'ont pas prévu, je pense, d'être aussi vite dehors de la Coupe.
Ouais, ils ont un gros effectif hein, voilà. Pour un match par semaine.
Donc, ouais. Il faut lui rendre grâce et rendre hommage à Philippe Clément. Il a quand même donné sa chance et du temps de jeu à presque tout son noyau, y compris les réservistes de luxe. Maintenant, je pense que même s'ils vont jamais pouvoir communiquer comme ça, dans leur esprit, tout le
c'est
monde
fait.
Leur dit, ils sont champions. Il faudrait vraiment une catastrophe, mais monumentale. Il faudrait qu'un Covid emporte 38 joueurs et qu'ils doivent perdre tous leurs matchs par forfait.
C'est presque une faute professionnelle, hein, s'ils sont pas
ouais.
Non, mais ça ne peut
non,
pas.
Non, mais je pense qu'ils
peut...
vont sûrement l'être. Maintenant, ça va être super excitant, la bataille à 3 derrière pour la 2e place, parce que
voilà.
Les 3 ont vraiment ont des armes. Et donc,
Je pense que pour Bruges, par exemple, en étant premier, bah déjà, ils sont qualifiés d'office pour les poules, si je ne me trompe pas, c'est toujours
oui.
Le cas cette année.
Mm-hmm. Hein, oui, d'office.
On est d'accord. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'ils pourront conserver leur noyau. Il n'y a aucun joueur qui est démobilisé, puisqu'ils savent qu'en étant champion, ils vont pouvoir jouer la Champions League. Et donc, ils gardent la motivation intacte. Finalement, ils auront eu 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire 6 à 8 semaines de flottement. Pour avoir vu le match hier, mais on va peut-être y revenir, et franchement, il y avait pas grand-chose, à part qu'il y avait des très beaux mouvements, on sent l'entraînement, etc.
On va y venir, parce qu'avant, je vous propose avant d'aborder la bataille pour le Playoff 2, on va s'arrêter d'abord sur le duel à distance qui opposait Moucron à Waasland Beveren, et ça va nous donner l'occasion de parler de Bruges, puisque Moucron avait une tâche pour le moins ardue. C'est face au leader, le club de Bruges, que les Moucronois devaient jouer leur dernière rencontre. Ils comptaient, avant ce match, 31 points, soit 3 d'avance sur Waasland Beveren, qui devait se rendre sur la pelouse d'OHL. Les Moucronois n'ont pas fait de miracle, même s'ils y ont cru quand même pendant quelques minutes, sans doute. Ils ont en effet pris l'avantage à la 50e minute, quelques instants seulement après l'égalisation d'OHL contre Waasland. Et là, je vous demanderai d'être attentif.
On l'est.
De sorte que pendant 5 minutes... Moucron a compté 34 points et Waasland seulement 29. Ce qui veut dire qu'ils avaient un matelas de 5 points, mais que, ben, évidemment, il y a 2 matchs qui se sont joués, que Moucron menant, et ils se sont fait remonter salement par Bruges, et Waasland a réussi.
Ouais. Moi, j'ai envie de dire.
Et Waasland a réussi à mettre le coup de collier pour gagner le match et pour passer au final devant Moucron.
Pour
le match de Bruges, ouais, Didier.
C'est pas pour parler du match de Bruges, je voudrais justement évoquer ce que tu disais pour la descente. N'en déplaise et je ne veux pas froisser les supporters de Moucron s'il y en a qui nous écoutent, et je suppose que c'est le cas. Mais au final, je pense que c'est pas une mauvaise chose. S'il fallait un descendant, autant que ce soit celui-là, avec une comptabilité pourrie, avec une gestion pourrie, il y aurait de nouveau eu des tas de problèmes juridiques concernant la licence, pas la licence. J'ai envie de dire que finalement, il y a une sélection naturelle qui s'est opérée et qu'en définitive, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour tout le monde, y compris pour le club qui va devoir revoir ses classiques, comme dirait Niki De Passe tous les mercredis, d'un certain point de vue. Et en même temps, j'ai envie de dire que pour l'amoureux de foot que nous sommes et du sport en général, c'est pas plus mal parce que Moucron, c'était quand même une espèce de laboratoire du foot pognon. Qui vient de n'importe où, des joueurs qui sont parachutés, puis qui s'en vont.
Il y a eu de tout. Hein.
Il y a vraiment eu de tout, à tel point qu'ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Et tu te souviens, au début cette saison, on se disait, il faudra compter avec eux, parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs, qu'il y avait un fond de jeu. Et puis, je pourrais plus te dire, je sais même pas si à la fin de la saison, il y a encore 4 noms qui figuraient dans la préparation. Je veux dire, c'était du grand n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, pour tout le monde, pour le foot et la première division. Sinon, on se serait retrouvé dans un truc kafkaïen comme l'année passée, où finalement on devait être à 16 et puis on se retrouve à 18. Enfin bref, un truc à la belge, hein, on va appeler les choses par leur nom. Voilà, après en termes de foot pur, j'ai envie de dire que de mon point de vue en tout cas, le candidat à la descente c'était Waasland, parce que clairement il n'y avait rien dans ce football, très honnêtement, à part qu'on aime beaucoup l'entraîneur, mais pour le reste, on parlait de qualité avec Anderlecht, là on est loin, c'est abyssal Waasland. Hein.
Et donc ils ont réussi le tour de force
de mener
surtout de se sauver. En tout cas, ils joueront un barrage.
Tu parlais de Moucron a mené
contre le club. Non, Waasland Beveren, ce qui m'a fait, c'est-à-dire que la semaine dernière, tu m'as dit
Ah ben t'as oublié d'annoncer que c'était lundi matin. T'as oublié d'annoncer qu'Oisland était
oui,
relégué.
Tout à fait.
Et puis j'ai dit non, ils ont encore une chance pour peu que Moucron marque pas de points.
Bon, oui, les pauvres. C'est pour moi que je t'ai dit ça parce que sur mon application LiveScore, ouais. Il n'est jamais fait mention du nombre de victoires.
Ah,
tu vois
exact.
Les points et tu vois la différence de goal. Et donc je me suis dit, j'ai cru que c'était ça qui comptait et qu'à
exact.
La
c'est vrai quand c'est vrai que c'est particulier à la Belgique, ouais. Hein, sans doute, c'est le nombre de victoires.
Tout à fait.
Ce qui est pas plus mal.
Je préfère ça à la différence de but, moi, honnêtement.
Ouais. C'est vrai que la différence de but, c'est... on peut tomber sur un adversaire qui a vraiment un jour sans. Mm-hmm. Je pense à...
Jult.
Ouais, c'est ça.
Exactement, j'allais dire.
Vous prenez 2 à 7 chez vous. Vous
plombez votre... Ces semaines, ils ont pris...
beaucoup de...
ils ont pris cher.
Mais c'est vrai que voilà, du coup...
Mais bon, ils ont transféré des Anderlecht. Hein.
C'est ça.
Moucron avait vraiment...
Avec deux scarques en défense, il n'y avait rien qui passait. Ouais. C'était peut-être il y a 10 ans, ça, en fait.
Remarque, il faut lui rendre ça. Il fait une belle saison, l'ami de Skiart. Hein. Franchement,
c'est vrai.
Complètement, rien à dire. Papy, 40 ans, chapeau bas, je dis.
Donc voilà, Oisland a réussi. Il faut saluer leur instinct de survie, hein, même si ça a été assez, voire très pauvre en football cette saison. Ils ont réussi à échanger leur place avec Moucron. Et donc maintenant, c'est un barrage qui va les attendre contre Serein.
Ouais. Mmh. Emilio Ferreira.
Ouais. Un petit pronostic, Serein.
Moi, je fais plus de pronostics. Non,
moi, je mets Serein.
Je me suis dit.
Moi, j'ai pas vu jouer Serein.
Aujourd'hui, il y a 3 semaines d'ici, la dernière fois que je suis venu, on a dit qu'est-ce qu'on fait, comme à peu près tous les commentateurs, hein, sur toutes les chaînes confondues. Ah ben non, Anderlecht, non, ce sera au stand.
Donc, ouais, c'est pas vrai, j'étais le seul à l'avoir dit. Ouais, j'avais dit qu'au stand,
on a les bandes.
Moi, je pensais que Genk allait sauter.
Tu avais dit quoi? Tu avais dit, oui, comme ça, je prends une fois le contre-pied. Mais il y a eu ça. Moi, je me suis planté royal en disant que je pensais que le Berscott allait aller au bout avec son budget, etc. Même
voilà, combat, ouais.
Même
combat. Justement,
Rachel,
tu me donnes l'enchaînement parfait.
C'est un métier. Hein.
Bah ouais, on apprend. On va passer maintenant à la lutte pour le play-off 2. Puisqu'avant cette journée, il restait 3 places à glaner. Puisque la première, elle se jouait entre Oostende et Anderlecht, bien sûr. C'est donc Oostende qui l'a. Et il y avait 6 équipes qui pouvaient espérer passer. Et les heureux élus, avec 2 Z, sont finalement le Standard. La Gantoise
de
et Malines.
Comme Zizou, c'est
Zizou.
Ça
comme Zult. Zut, Zult. Donc, ouais. 2-7. Et Malines. Malines qui finalement coiffe au poteau aussi.
Je suis content. Parce que c'est une équipe de laborieux, et dans le sens noble du terme. Mais franchement, je suis content. Parce que c'est un public exceptionnel, il faut le dire, à Malines aussi. Voilà, je suis un peu déçu pour les Carolo parce que...
ils se sont enterrés tout seuls. Hein.
Ouais, ils ne méritaient vraiment pas.
Hein. Non.
Franchement, sur les derniers matchs,
c'était
pauvre.
Compliqué. Hein.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai pour le public qui nous a fait une Marseillaise, enfin qui a essayé de nous faire une Marseillaise avant le match en envahissant le terrain, etc. Ce qui a reporté le match d'une heure et demie, je pense, truc comme ça. Mais franchement, c'est dommage parce que Karim Bellossi, je trouvais, avait fait un super top job. Et à mon avis, c'est un petit peu comme ça. On vit dans une période où tu passes du top au flop, mais en moins de temps qu'il faut pour
oui,
le
dire. Oui, et puis j'ai l'impression, surtout, la Jupiler Pro League cette année, c'était vraiment très, très compact, très montagne russe. Il y a peu de clubs qui ont réussi à tenir sur la durée. Ouais.
Mais parfois, il suffit qu'un élastique qui lâche et puis... Ils ne retrouvent pas.
C'est vrai, mais là, c'est.
Ils ont commencé à avoir une défaite, 2 défaites, 3 défaites, puis plus de jeux.
Et ils étaient quand même premiers au classement après 5 ou 6
matchs.
Ouais,
ils avaient fait un 18 sur 18.
Ils avaient bien commencé. Mais je vous propose qu'on parle de. Pas des absents, mais des présents, de ceux qui sont qualifiés. Et Malines, ça va nous donner l'occasion, quoi, de voir quand même un joueur un peu plus longtemps.
Steven,
eh oui. Exactement. On avait programmé son pot de départ pour hier et
lui
finalement,
aussi.
Oui. Et ben il va devoir
même pas là pour le play-off en fait.
Il va devoir empiler pour 6 matchs.
Je crois qu'il a dû rendre. Il avait reçu une photo de lui en grand dans le stade. Il va devoir le rendre. C'est pas son dernier match à domicile.
C'est vrai. Là donc il va revenir. Enfin il va revenir. Il reste là. Il est toujours là. C'est plutôt sympa pour. Une fin de carrière, un petit mot sur le Standard peut-être, qui retrouve des couleurs
mais
rouges,
qui perd Bocadi.
Sûr.
Mais qui perd Bocadi pour tous les playoffs.
Ouais.
En fait. Ouais. Ça c'est malheureux pour eux parce que il était en pleine bourre lui.
Ouais.
Mais qui ont récupéré Klaus.
qui vont récupérer Joao.
Didier l'a dit tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression que le Standard, on va pouvoir compter sur eux l'année prochaine.
Ouais. Ça va être un beau championnat.
Peut-être pas pour les 4, parce que ça va être compliqué, mais au moins essayer de se battre pour les 4, je pense. J'espère que Mbailey va... Bon, j'imagine qu'il va rester, qu'on va lui donner peut-être un petit peu plus de joueurs et qu'il va pouvoir travailler avec ce groupe. Parce que vraiment, ils sont bien sur les dernières semaines. Là.
Ouais.
En tout cas, c'est la meilleure préparation pour la finale, hein, de gagner et se qualifier.
Ouais.
Même si c'était un lot de consolation, on va dire, les play-offs 2. Mais je trouve que préparer une finale de Coupe de Belgique, c'est mieux de terminer par une victoire.
Ouais. Rappelons qu'elle aura lieu la semaine prochaine et qu'elle opposera donc Genk au Standard. Et comme tu le disais, Henri, en cas de victoire de Genk dans la Coupe, les quatre qualifiés pour le play-off 1 seraient assurés.
Oui, il y a un autre cas de figure. Si le Standard gagne les play-offs 2, mais qu'il a gagné la Coupe.
Qu'il a gagné la Coupe, ça.
Il n'y a pas le barrage.
Ouais, non, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'avec la création.
En théorie, il y a un barrage entre le vainqueur des play-offs 2 et le quatrième des play-offs 1.
C'est ça.
Mais... Sauf si c'est le Standard qui gagne.
Voilà.
Quelque chose comme ça.
Et on sait, voilà, on sait pas exactement. Voilà. Et on sait même pas exactement dans quelle compétition
on s'en fout, Bruges sera champion.
Ça, on verra. Mais enfin, il y a quand même de bonnes chances que Bruges soit champion.
À noter quand même, si tu permets, Sam, une petite parenthèse, que le Cercle de Bruges, c'est la deuxième année consécutive qu'il se sauve à une ou deux journées de la fin. Donc eux aussi, ils ont vécu. Alors qu'on a pensé au départ qu'ils auraient une saison tranquille dans le ventre mou, ça n'a pas été le cas. Ils ont marqué pas de chance parce qu'ils ont perdu des matchs où ils auraient jamais dû perdre des plumes. Mais c'est quand même la deuxième saison consécutive avec quand même de bons entraîneurs, avec quand même de bons joueurs et surtout avec quand même un allié de poids, Monaco, qui est derrière. Donc c'est étonnant d'être aussi bas dans la hiérarchie avec toute cette logistique derrière, qui est quand même financièrement très lourde et même sportivement extrêmement capable.
On verra ce qu'ils feront la saison prochaine.
Il y aura une... Là, ils sont en vacances.
Là, ils sont en vacances, ouais.
C'est terrible, quand même.
C'est injuste, hein, pour certains.
Donc, il y a aller à la côte. Hein.
Donc, si je comprends bien, il y a deux fois quatre équipes qui sont encore en compétition.
C'est ça.
T'as un barragiste qui est...
Westland qui reste.
Ça fait neuf. Donc, la moitié du championnat, des équipes du championnat, sont en vacances, quoi.
Ouais. Ouais.
Ou en préparation pour la saison prochaine.
Il y en a beaucoup qui étaient déjà en vacances.
Ils vont être prêts, alors.
Depuis toute la saison, il y en a qui étaient un peu en vacances.
Je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas d'autre exemple en Europe, comme ça.
Non, il n'y a aucune autre ligue européenne qui joue avec des play-offs de toute manière.
Des play-offs, mais 9 équipes, la moitié du championnat qui est en vacances.
Si, en Suisse, ils font des play-offs aussi.
Ouais, mais on parle de championnat sérieux.
Et je vous signale que la Suisse a quand même battu la Belgique.
Et puis la Suisse est le siège de l'UEFA.
On va y venir.
Et de la FIFA.
Il y en a un, c'est Lausanne. Oui, l'un, c'est Lausanne, l'autre, c'est...
La FIFA, Zurich, c'est Zurich, ça, c'est sûr et certain. Ouais.
Parce que c'est un grand pays de football.
Absolument. Ouais. Uniquement pour ça.
Et puis surtout, il y a plein de banques.
Les coffres sont sûrs. Ouais. L'argent de ces blatteurs, il est à l'abri, là-bas.
Purée. Attention. Et on y reviendra avec la Super League, parce que j'ai mon... Enfin, c'est pas
mon avis, mais... On va en parler. Mais avant ça, on avait promis à nos auditeurs de leur dévoiler notre 11.
Ah oui.
Notre 11 de phase classique.
Club de Bruges.
quasiment tout le monde a voté. Hein. Je dénoncerai pas ceux qui l'ont pas fait. Mais en tout cas, l'équipe qu'on a arrêtée.
Alors, je suis prêt à m'en aller. Parce que.
Non, alors, non, on t'a fait plaisir.
C'est pas pour te faire plaisir. On a été juste. C'est Simon Mignolet qui garderait les buts de notre équipe de Jupiler Pro League.
Gardien, franchement, ça c'est un gardien qui gagne des points. Il n'est pas le seul dans le championnat belge. Je pense à Baudard, au Standard, qui a aussi gagné les mauvaises langues diront le peu de points que le Standard a eu, c'est aussi grâce à Baudard. Mais Mignolet, franchement, est au-dessus du lot. Et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Blaise et Henri, je trouve qu'au jeu au pied, je suis bien d'accord, il est même meilleur supérieur à Courtois pour moi.
C'est pas possible.
J'ai cru que t'allais dire qu'il était meilleur que Wallen Reuter.
Non, mais c'est vrai. J'ai vu Courtois notamment récemment avec les matchs internationaux et même avec le Real, il est pas à l'aise au pied comme Mignolet peut l'être.
Mignolet joue contre Beveren et Courtois contre le Barça.
Oh, non.
Je suis d'accord avec toi.
Il joue en Champions League contre Rome et voilà, je le sens plus à l'aise et plus précis surtout.
Ouais, je suis d'accord.
Enfin bref. Je reste. C'est bon.
Tu restes, c'est bon. On te garde. En défense, on a mis Murillo, Mekele, Kossounou et Sobol, mais on aurait pu mettre Mata, par exemple.
Ah oui, j'étais en train de me dire où est-ce qu'il est, Clinton.
Voilà, on aurait pu mettre Mata.
J'étais très étonné de lire qu'au jour d'aujourd'hui, j'avais envie de dire, mais on est dans quelle sphère, il ne vaudrait que 20 millions.
C'est de l'argent pour un latéral.
Non, mais je veux dire par là, quand tu vois les sommes qu'on propose pour certains joueurs. Mais
alors, parce qu'il n'est pas en vue à l'international, il n'est pas en équipe nationale.
Peut-être, mais juste. Alors, mais après, c'est
juste incroyable.
On est d'accord.
Je crois que Florenzi, l'arrière-droit du PSG, il y a une option. Alors, vous me direz, c'est une option d'achat, ça a été négocié avant. Il est international italien, l'option n'est qu'à 9 millions d'euros.
Incroyable.
Donc, c'est. Après, je ne sais pas si le marché est peut-être un peu faussé. Au milieu de terrain, on a mis un milieu qui va sans doute convenir à tout le monde. Vormer, Sambi Lokonga, qui a fait sans doute une très belle saison. Et puis on a.
À mon avis, on n'est pas encore au début de voir ses capacités.
Mais je ne sais pas, malheureusement, si on les verra souvent, on les verra encore longtemps
en tout cas.
J'espère que oui, qu'ils vont pouvoir le garder, parce que sans lui, je ne vois pas ce qu'il
va. Et puis, en troisième au milieu de terrain, ça c'est une petite gourmandise, on aurait pu le mettre plus haut sur le terrain, mais on va dire qu'on a une équipe offensive.
Kevin.
On a mis Aït El Hadj, qui finit la saison en boulet de canon, qui vraiment est aussi une des très très belles révélations, confirmation pour un jeune de...
C'est qui bénéficie finalement de la ponctualité, du moment présent. Quoi. On vote maintenant et on l'a en tête.
Mais il a saisi sa chance aussi. C'est ça. Parce qu'il ne l'a pas eu tout le
temps. Si c'est un 11 de toute la saison.
Non, il n'est pas dedans, ça c'est sûr.
Bah, c'est comme Rafaelov.
C'est ça.
Toute la saison, il n'est jamais soulier d'or.
C'est ça.
Voilà,
mais il est de plus en plus régulier à Itelage. Il a eu quelques éclairs. Il y avait des moments où il passait un peu au travers. Et là, je trouve que depuis 6-8 matchs, c'est bien. Et en attaque, on commence par. L'avant-centre, celui qu'on ne peut pas ignorer, c'est Onuachu, c'est le meilleur buteur du championnat, il en a marqué 28, c'est
impressionnant.
C'est impressionnant.
Dont 26 pénaltys.
On parle de lui comme étant peut-être le futur plus gros transfert de l'histoire de Genk.
Ça, pour le coup, il a marqué beaucoup de buts et tout, mais ballon aux pièces, je le trouve pas impressionnant, moi.
Pour son gabarit, il est impressionnant.
On se faisait la réflexion.
Je crois que les Golden State Warriors cherchent un pivot.
Je ne
sais plus quand c'était contre le Standard Anderlecht ou Bruges, enfin en tout cas un des gros clubs en Belgique. Il était mais monstrueux.
Contre Anderlecht en coupe, je crois. Contre Anderlecht en coupe, je pense qu'il fait un gros match.
C'est possible, mais c'est en plus de ça, pour un gars de sa taille, il me faisait un peu penser à Romelu. Tu te souviens, on avait évoqué ça, toi et moi. Et je trouvais que c'est rare de voir un gabarit pareil aussi agile en définitive.
C'est vrai qu'il est, il n'a pas la. La maladresse que certains joueurs de grande taille ont. Lui, il a pas celui que je vais vous citer maintenant, il n'a pas la maladresse des joueurs de grande taille, puisqu'il est plutôt petit. C'est Noah Lang qui a été
incontournable.
Incontournable, la très bonne surprise, parce que personne ne le connaissait quasiment au moment où il est arrivé à Bruges.
Mais souvenez-vous, on a quand même été précurseurs ici dans cette émission. Parce qu'après le premier match où on l'a vu, on s'est tout de suite tous dit... Le championnat va vite être trop petit pour lui si il continue comme ça. Et force est de constater.
C'est gentil de nous associer à ça, mais c'est vraiment toi qui l'as dit.
C'est toi qui l'as dit.
Même temps, c'est vrai qu'il était. Il n'a pas pris la grosse tête. Il joue tout. Et en fait, il me fait penser un petit peu à ces joueurs comme Eden Hazard dans un style différent. Il s'amuse sur un terrain de foot. Quand il se fait caper, quand il marque, etc., tu sens chez ce gars une vraie joie d'être là, un vrai bonheur, mais pas genre regardez-moi, machin, c'est
pas encore. Pas
moi, je vais donner un petit pourcentage.
Les Hollandais en général.
Un petit pourcentage de sa réussite à Clément, quand même, une super gestion.
Bien sûr, mais comme de Kepa, qui est un peu dans le creux pour l'instant, à vrai dire.
Ouais.
En termes de précision,
la frappe sur la latte lui est peut-être restée. Et en dernier, le dernier qu'on a mis, on pouvait pas passer à côté. C'est notre héros quasiment dans cette émission. C'est Didier Lamkelze, qui aura tout fait depuis la trêve. Je vous souvenez.
Il a animé toutes les rubriques.
Ah, il a animé toutes les rubriques.
Et à juste titre en plus, parce que quel talent.
Ouais. Honnêtement, il a fait son truc cet hiver là, mais depuis qu'il est depuis la reprise, il est impressionnant. Il a fermé sa bouche, il a travaillé pour l'équipe et il a fait une deuxième moitié de saison impressionnante.
Ouais, c'est vrai qu'il était passé complètement au travers au début. Après, on a cru qu'il était vendeur chez Decathlon parce qu'il venait tous les jours avec un maillot différent à l'entraînement. Il avait posté un.
Il était déjà parti
en Grèce. Et puis au final, il est là, il est bien et bien là, titulaire, et son équipe est deuxième.
Il a même éclipsé de Camargo. Mbokani, je veux dire.
Ouais. Oui.
Mais d'un autre côté, il faut reconnaître aussi, on vit dans un monde un peu particulier avec les réseaux sociaux notamment. On peut plus gratter le nez sans que ce soit mondialement répercuté. Finalement, on a beaucoup parlé du hamburger d'Eden. On a parlé du changement de maillot de Lamkelze. Je me souviens, et je l'évoquais dans cette émission, de Ronnie Rosenthal, pour les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui buvait du whisky comme un malade au Mirano, pour ne pas citer la boîte à l'époque. Alors moi, j'étais jeune et qui fumait clope sur clope et qui
champion était, Liverpool.
Et qui jouait avec le Standard à l'époque et Bruges aussi auparavant et qui courait comme un lapin. Moi, je le voyais à 2h du matin le dimanche et il allait l'après-midi jouer un match au top. Donc, je veux dire, ça ne se savait pas plus. Ça restait dans un petit carcan. Et voilà. Et ces gens pouvaient s'exprimer clairement. Lame Kelsey, bon, il est comme il est, mais quel talent, ah, quel bonheur vraiment... que... Tu respires quand tu vois un gars comme ça jouer au foot, quoi. C'est tellement beau à voir quelque part.
C'est vrai que ça fait plaisir.
Heureusement que le staff et que le managing de l'Antwerp n'a pas suivi les supporters. Sinon, je suis même pas sûr qu'il serait dans le top 4 aujourd'hui, parce que combien de points il a ramené depuis le début de l'année. Waouh. Merci Lame Kelsey. Hein. Franchement, ils peuvent le remercier, mettre un cierge, parce qu'un Mbokani a eu un creux de vague assez solide.
Absolument.
Écoutez, on a terminé sur cette partie belge de notre émission. On se réjouit des playoffs qui commenceront bientôt. On a la Coupe de Belgique la semaine prochaine et on aura le temps d'en reparler. Maintenant, on va devoir passer au gros dossier du soir, celui qui anime le monde du football et même, comme je le disais, au-delà du monde du football depuis 24 heures. C'est cette histoire de Super League européenne qui a donc été créée par 12 clubs parmi les plus prestigieux d'Europe. Il faut savoir que ces clubs ont gagné, j'ai fait une erreur ce matin quand j'ai... Ils ont gagné 40 des 65 éditions de la C1 depuis sa création. C'est quand même assez impressionnant. Alors, rappel des faits, hier dans l'après-midi, on a eu des fuites, des bruits qui couraient comme quoi on allait avoir une annonce. C'était le New York Times, le Sunday Times qui avait indiqué cela et qu'on allait avoir dans la soirée sans doute une annonce exceptionnelle. Et aux alentours de minuit, il y a un communiqué qui est paru, signé conjointement par ces 12 clubs. Alors on va rappeler le nom de ces clubs. Ce sont 3 clubs espagnols, le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, 3 clubs italiens, la Juve, l'Inter, le Milan AC, et 6 clubs anglais, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, et on ne sait pas pourquoi Arsenal. Non mais, enfin, il y a 11 grands clubs et Arsenal et Tottenham. Non, 10 grands clubs et Arsenal et Tottenham, je plaisante. Et donc ces clubs-là ont annoncé avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition, la Super League, qui serait donc gouvernée par ces clubs fondateurs. Clubs fondateurs qui sont au nombre de 12, mais auxquels 3 clubs supplémentaires seront invités, 3 clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale, qui démarrera selon le communiqué aussitôt que possible. Donc il y aurait un pool de 15 clubs fondateurs, mais la compétition ne se limiterait pas à ces 15 clubs, mais on y ajouterait 5 autres clubs qui seraient choisis en fonction des résultats de l'année précédente. C'est pas plus, c'est vague.
Du bilan financier ou
On ne sait pas. Et donc c'est une ligue qui se jouerait et qui se veut, en tout cas tel que ça a été présenté, comme un concurrent de la Ligue des Champions. C'est pas
ça se jouerait en milieu de semaine.
Voilà, ça se jouerait en milieu de semaine. Et dans le communiqué, les clubs ont tenu à rappeler qu'ils continueront de participer à leur compétition nationale le week-end, préservant, je cite, le calendrier traditionnel des matchs qui restent au cœur de la vie des clubs. Donc,
j'ai une petite question. Oui. J'étais un peu hors circuit. C'était une conférence de presse ou c'est une...
Non, c'est un communiqué qu'ils ont tous sorti. Tous les clubs l'ont sorti conjointement sur leur page officielle. Ils ont sorti ce communiqué en expliquant tout.
Il y a un site internet qui existe déjà aussi, superleague.com. Et voilà.
Il y a ce soir Florentino Pérez invité dans l'émission El Chiringuito espagnol super connu. Où il va apparemment tout balancer.
El Chiringuito.
Ouais. Wow. En clair, donc, il s'agit d'une ligue fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour ces 15 clubs-là d'en sortir. Quand je dis d'en sortir, c'est surtout c'est de ne pas en être l'année d'après.
Tu peux jouer comme une taupe et puis tu restes quand même.
Exactement.
Comme en Ligue des Champions.
Non, il faut la gagner pour y rester.
Bah, pas du tout.
Il faut être.
Cite-moi les équipes qui sont sorties de la Ligue des Champions depuis 20 ans.
Bruges.
Bruges, c'est pas une équipe fondatrice. Bruges, elle fait pas partie des 40 équipes qui ont gagné les 65 Ligue des Champions.
Ils y restent sportivement. Tandis que
ils pourraient très bien faire partie des 5 invités. Pourquoi ils feraient pas partie des 5 invités?
Je pense que Blaise est pour.
Non, mais c'est pas une question d'être pour ou contre. Il faut juste pas dire des bêtises. On sait même pas comment ça va se faire. Les 5 clubs, on sait pas qui ça va être. Peut-être que Bruges en fera partie.
Je parle pas des 5 clubs. Moi, je parle des 15 ou des 10, ouais. En tout cas, ou des 12 qui sont inamovibles. Alors, ils peuvent jouer comme des daubes.
Et ils sont tous tout le temps là. À part Arsenal, ils sont tous tout le temps là.
Attends. Ce que je veux dire, moi, c'est que, bien sûr, qu'ils sont toujours là, tout le temps. Mais ils doivent faire un effort sportif pour y être tout le temps. À partir du moment où on sait que demain, quoi qu'il arrive, eh ben, t'es champion, est-ce que tu crois franchement, regarde, on parle on revient en Belgique, du jeu brugeois, depuis que dans leur tête, ils savent qu'ils sont champions et qu'ils ont fait le job.
Non, mais c'est différent.
Ben, voilà, mais ce sera la même chose.
Pas du tout, c'est différent. Enfin, ce sera une compétition qu'ils vont devoir jouer contre les plus grands clubs européens.
Super. Super.
C'est juste parce que tu veux pas réformer le foot, mais le foot il est réformé de tous les 10 ans depuis 50 ans.
Attends, et c'est le mec qui se battait pour le foot amateur il y a 2 semaines.
Non mais c'est complètement différent, Didier. C'est complètement différent le foot. Enfin, c'est pas du tout la même chose. L'UEFA,
bah, c'est cool.
Alors, l'UEFA, elle se gave sur le dos des joueurs depuis la nuit des temps, et on va nous faire croire que financièrement.
Je suis d'accord. Moi aussi. Alors je vais juste avant qu'on reprenne ça. Juste vous donner donc les réactions qui ont pas tardé à arriver. Elles ont même été
plus... Pourquoi c'est déjà dans le journal?
Elles ont même tellement peu pas tardé à arriver qu'il y a même eu des réactions de l'UEFA et de la FIFA avant même le communiqué, parce que, bah, évidemment, ils étaient au courant que ça allait intervenir. L'UEFA et les associations nationales dont sont issus les clubs avaient pris les devants et ont indiqué qu'avec l'appui de la FIFA et de l'ensemble des autres associations membres, elles restaient unies dans le but de mettre un terme à ce qu'elles qualifient de projet cynique, fondé sur l'intérêt personnel de quelques-uns, au moment où la société est plus que jamais en quête de solidarité. Alors, elle a aussi sorti l'artillerie des menaces, des recours juridiques bien sûr, et ce qui nous concerne le plus ici, c'est les sanctions sportives. C'est-à-dire que ce qui est annoncé, c'est que les équipes qui prendraient part à cette compétition pourraient être exclues de leur championnat, pourraient être exclus des compétitions européennes et mondiales, et cerise sur le gâteau, sans doute le pire, ou en tout cas c'est l'arme qui va peser peut-être le plus dans la balance, c'est la sanction des joueurs dont les clubs sont engagés dans cette compétition. Avant de reprendre notre débat, je voudrais juste dire une chose, c'est que je trouve que l'UEFA a bon dos
Excuse-moi Sam, tu disais la cerise sur le gâteau pour les joueurs.
C'est les joueurs.
Ils ne pourront pas jouer pour l'équipe nationale.
Exactement, pardon. Ils pourraient être sanctionnés et ne pas jouer pour l'équipe nationale, ce qui voudrait dire que le joueur aurait à choisir finalement.
Bah, nous, on jouerait sans De Bruyne, sans Hazard et sans Romelu Lukaku.
Vous pensez vraiment que la FIFA, elle va laisser les équipes arriver à la Coupe du Monde sans les 100 meilleurs joueurs du monde? Ils sont pas malades non plus.
Tu parles de la Belgique, mais imagine-nous. Imagine l'équipe de France.
Une Coupe du Monde, c'est un produit pourri s'il n'y a pas les 100 meilleurs joueurs du monde.
Absolument.
Enfin, c'est pour ça que c'est une façon de faire la pression sur les fédés. En
fait. Exactement. Ils vont jamais réussir à faire
exactement.
Ça.
Exactement. On va dans l'ordre, mais tout à fait. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison, Blaise. C'est que c'est une arme qui paraît disproportionnée parce qu'ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en disant. Alors, ils pourraient essayer de le faire pour l'exemple, mais ce serait difficilement tenable. Et donc, ça s'apparente peut-être, on ne sait pas si ça va finir comme ça, mais à un gros coup de pression de ces clubs-là.
Il a bien préparé, il l'a dit depuis ce matin.
un gros coup de pression. J'entends plein de trucs qui me rendent fou, en fait.
C'est un gros coup de pression de ces clubs-là sur l'UEFA, au moment même, bien sûr, parce que ce n'est pas sorti à n'importe quel moment. Ce matin, l'UEFA a validé sa nouvelle formule, la refonte de la Ligue des Champions, sur un format qui est bidon complètement, je trouve.
N'importe quoi, ce truc. Et après, on s'étonne que les grands clubs veuillent quitter la Ligue des Champions, franchement.
Moi, je trouve que...
Ah non, mais alors attention, sur le fond, je suis d'accord.
C'est pour ça que je trouve juste que l'UEFA, j'ai pas envie de pleurer sur l'UEFA, parce que l'UEFA, c'est vraiment ce qui a conduit...
Là, on est raccord.
On arrive là-dessus.
Ils ont rien fait.
On arrive à ça parce que l'UEFA a tracé le chemin pour ça. Je vous rappelle que la Coupe d'Europe, on va faire un petit rappel des faits, jusqu'en 92, la Coupe d'Europe des clubs champions, elle s'appelait Coupe d'Europe des clubs champions. Après, on a fait une Ligue des champions à partir de 92-93, victoire de l'Olympique de Marseille.
Mais qui était un format pourri aussi.
Qui était un format pourri, mais qui permettait de s'assurer que quelques grands clubs joueraient suffisamment de matchs et n'auraient pas la déconvenue qui était arrivée cette saison-là, d'ailleurs, à Barcelone et la saison d'après, ou la saison d'avant à Marseille, de se faire éliminer par, c'était pas la jeunesse d'Esch-sur-Alzette, mais c'était le Sparta Prague ou je ne sais quoi en premier tour. Donc, on a créé une Ligue des champions pour que les clubs soient plus de matchs.
Pour que même les deuxièmes et les troisièmes championnats.
Ensuite, on a créé
entrer les deuxièmes et les troisièmes, donc on a une coupe qui
puis
porte plus son nom.
Puis les quatrièmes, puis les cinquièmes.
Puis les quatrièmes, il y a même une année peut-être où il y a eu cinq clubs parce qu'il y avait un club qui avait gagné. Donc l'UEFA, elle est bien gentille de dire aujourd'hui, oh là là, de se pincer le nez en disant c'est un projet très cynique de la part de ces grands clubs, mais elle a quand même été à l'origine de tout ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on se réveille un peu en disant mais c'est la mort du foot, mais le foot il a évolué depuis 35 ans.
Florentino Pérez, ça fait 25 ans qu'il veut réformer cette Ligue des Champions et qu'il veut en faire qui veut juste que l'argent soit réparti. Maintenant, l'UEFA a rien fait. Pérez, il leur a dit on se barre, on en a marre, on se barre. Et moi, je peux pas leur en vouloir d'avoir fait ça.
L'UEFA n'a pas rien fait, ils ont augmenté les droits télé. Depuis 10 ans,
ils ont augmenté les droits télé, mais ils récoltent 75% des droits télé. Ils donnent 25% de miettes au club. Et...
Alors, on est d'accord avec ça.
Ok, et alors j'ai envie de dire, moi je vois ça un peu de manière ingénue peut-être, et le sport là-dedans. J'ai envie de dire, finalement, et là on est raccord, Blaise, moi je ne suis pas contre la Super League.
Je ne suis pas forcément pour, juste...
Ce que je veux dire, c'est que moi en tant que fan de
foot... Ça s'adoucit déjà.
Bien sûr que... Nous, il n'y a pas de souci, on est amis quand même, on peut débattre. Mais je veux dire, je me réjouis à l'avance de me taper une fois par semaine un Liverpool-Barcelone ou un Real Madrid-Westland-Beveren. Je plaisante.
Mais
on s'en réjouit.
Mais justement.
D'un autre côté, j'ai l'impression. Pourquoi ? Alors, maintenant, tu l'as évoqué, je suis peut-être pas aussi au fait de tout ça que toi, Blaise. C'est vrai que j'ai envie de dire, alors pourquoi pas proposer en disant voilà. On se met à table parce que sinon on se casse.
Bah, je pense
on a
que
toutes
c'est
les armes pour se casser.
Je pense que c'est ce qu'ils ont fait depuis, ils font depuis un certain temps et que là, à mon avis.
En tout cas, ils n'ont pas communiqué là-dessus.
Non, c'est peut-être.
Voilà. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont en train de préparer un truc en douce.
Oui.
Ça fait.
Alors comme tu dis le mot, c'est en douce. Pourquoi en douce ? L'intérêt commun, c'est de faire la promotion du foot, que tout le monde s'y retrouve, de dire on s'assoit tous ensemble, on va réformer ça. Or là, effectivement, c'est une dissidence. Et évidemment, deux ne peuvent pas avoir lieu ensemble. Ça ne sera pas possible.
Non.
Donc, de toute façon...
C'est pour ça que moi, je pense qu'au fond, ça n'est qu'une menace et que ce sera sûrement pas mis à exécution parce que...
Bah, je ne sais pas. Comme les 12 clubs qui annoncent ça en même temps, machin, truc.
Ah bah oui,
pas,
non, mais ils ont
faut
fait
pas
ça.
Il faut qu'ils aient associé avec leurs propres supporters hein, aussi.
Justement, au niveau des supporters et des réactions, on a pu voir des choses assez... qui sont assez intéressantes. On a vu par exemple les supporters de Liverpool venir décrocher des bannières qui sont accrochées à Old Trafford, Anfield Road, excuse-moi, et venir en accrocher une autre avec écrit Liverpool Football Club mort ici en 2021. Enfin, les réactions d'ailleurs
des supporters en plus.
Évidemment, les Bayern et Dortmund.
Alors voilà,
se solidarisent.
Le Bayern,
le club allemand.
Les clubs allemands sont pas là. Les clubs français non plus. Mais alors, j'aimerais pas que.
Franchement,
les clubs qataris non plus.
J'avais
le dire.
J'avais une petite fierté, pas une petite fierté, mais en disant bon bah au moins mon club
dignité,
reste digne. Bon, le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. leur actionnaire principal doit organiser la Coupe du Monde dans 2 ans, même pas l'année prochaine.
2022.
Sont en train d'installer l'ERCO.
Donc, c'est sans doute pas le meilleur moment pour se mettre à dos les instances du football mondial.
Ils n'ont pas gagné l'année passée.
Je crois pas.
C'est
un joueur formé au PSG en tout cas qui avait marqué le but en finale.
Aussi, on demande à Nasser El Khelaifi aujourd'hui de prendre la tête de l'ECA, qui est l'association des clubs. Comme par hasard, il refuse sous prétexte qu'il veut s'occuper de son club. Merci, mais.
On est en train de dire la même chose, c'est que finalement, la FIFA ou l'UEFA ou les instances du foot, quelles qu'elles soient, c'est en fait un énorme parti politique.
Mais évidemment, évidemment.
Et c'est pour ça que c'est assez difficile d'entendre l'UEFA, surtout l'UEFA après que qu'Alex Ferguson dise si on en arrive là, on aura tourné le dos à 70 ans d'histoire de football, ou que Bielsa dise, je trouve moi à juste titre, Bielsa, il a dit l'une des raisons pour lesquelles le football est le sport le plus populaire au monde, c'est parce que les faibles peuvent battre les puissants. Toutes ces choses-là, on est d'accord.
On avait écarté déjà les.
Mais je suis pas d'accord avec ça, parce que depuis l'arrêt Bosman, il y a deux équipes qui ont gagné la Ligue des Champions qui n'étaient pas dans le quota européen, c'est Dortmund en 95
et Porto en 2004. C'est les deux seules équipes qui ont gagné.
C'est le maître Capello du foot, lui.
C'est les deux seules équipes qui ont gagné le...
C'est 97.
97, pardon. Bah oui, en plus je me trompe. Donc, franchement, les petites équipes, elles étaient déjà sorties. C'était déjà une ligue semi-fermée, cette Ligue des Champions. Après, maintenant, on va nous ressortir à toutes les sauces l'Atalanta et l'Ajax. Waouh, ça arrive tous les 10 ans, ces trucs. Et l'Atalanta et l'Ajax, ils sont pas allés au bout. Et s'ils font des bonnes saisons dans leur championnat ou dans la Ligue des Champions à 58 clubs,
on leur achète les joueurs.
Reste avec nous.
Mais ils pourront faire partie des clubs invités. Il faut arrêter de dire que c'est un truc super fermé. Il y a 5 clubs qui vont être invités. Et il n'y a pas 5 petits clubs qui peuvent être meilleurs que l'Atalanta de 2019 ou l'Ajax de 2018.
Mais je voulais dire quelque chose. Il y a un truc philosophiquement, c'est les monopoles. C'est-à-dire l'UEFA, la FIFA ont un monopole sur le football jusqu'au.
Bien sûr.
Du tout en haut jusqu'au tout petit. Et
ils en abusent.
Ils en abusent. Bah, bien sûr. Et dans un monde qui change, des monopoles dans. Tu parles de n'importe quel secteur d'activité, ça n'existe plus. Ouais. À part dans le football.
Non mais un tel monopole.
Oui, c'est-à-dire que ceux qui l'ont défendent le royaume et mettent des barrières.
Non, ce qui m'agace vraiment, c'est le côté.
Ce qu'ils s'attendaient pas, je pense que c'est que c'est de l'intérieur que ça pète.
Mm-hmm. Ouais. C'est le côté vierge effarouché de l'UEFA qui vient être le défenseur des petits clubs alors qu'ils les ont été leurs fourvoyeurs depuis des années, les fossoyeurs plutôt, des fossoyeurs des petits clubs. Comme tu l'as dit, il y a plus le Dynamo, le Steaua Bucarest qui a gagné en 87,
rouges,
gagne pas. Tous ces clubs là, c'est terminé.
L'avantage avec la Super League, c'est qu'il n'y aura plus de boules chaudes, donc
voilà. Après, finalement,
peut-être que Pérez va mettre des boules chaudes.
Est-ce que tu as des preuves?
Mais finalement, les deux formules sont, si on y réfléchit bien, sont peut-être pas si éloignées l'une de l'autre. Après, le format, oui, même le format de la nouvelle coupe, de la nouvelle Ligue des Champions, pour moi, il est assez incompréhensible.
Il est ridicule. Franchement, tu l'as dit tout à l'heure, ils se sont tiré une balle dans le pied en sortant ce truc juste après l'annonce de la Super League. Enfin, c'est la pire réforme de toute l'histoire de la Ligue des Champions qu'ils ont fait, là.
Pour info,
je suis même pas au courant, oui, voilà.
Ah mais vas-y parce que c'est une Ligue des Champions à 36 équipes avec sous format suisse, donc c'est un championnat où toutes les équipes ne se rencontrent pas.
Il y a pas de groupe, mais 4 chapeaux de 9 équipes qui déterminent les affrontements. Il y a 10 journées, 5 à domicile, 5 à l'extérieur. Pas de match aller-retour. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la philosophie de ce qu'on voit actuellement.
Pas d'élimination directe.
Il y a donc 18 matchs qui sont joués par journée. 10 journées, 180 matchs. Je vous dis juste que actuellement en phase de poule, il y a 96 matchs joués. Donc on voit bien l'augmentation. Les 8 meilleurs au classement sont qualifiés. Donc comme un play-off, sont qualifiés pour les 8e de finale. Les équipes qui sont classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage aller-retour pour se qualifier pour les 8e. Et il y a que 11 équipes qui sont éliminées. Donc ça veut dire tout ça pour il faudra gagner 17 ou 19 matchs pour gagner la Ligue des Champions.
C'est eux qui disent que si on fait la Super League, il va y avoir trop de matchs. Mais est-ce qu'ils s'entendent parler, quoi?
Oui. Là, le nombre de matchs,
et
on parle exactement. On parle. Enfin, ils ont vraiment pas le bon rôle pour défendre ça, pour défendre les valeurs du football. Quand on voit que au lieu de laisser des matchs amicaux se dérouler, on a créé une compétition qui est la plus compliquée du monde, la Ligue des Nations, avec des formats A, B. Vous êtes qualifiés, vous êtes pas qualifiés.
Ils sont créatifs.
Ils sont créatifs, mais on peut pas dire qu'ils aillent vraiment dans le sens du football. Après,
ils vont clairement dans le sens de l'argent.
et en fait, la seule question, et pour moi, ça va se régler sans doute comme ça, c'est s'ils ont fait cette annonce aujourd'hui, ces 12 clubs puissants, c'est pour mettre une pression énorme à l'UEFA et pour que l'UEFA lâche quelque chose. Moi j'ai entendu dire que ce qui se ferait peut-être, c'est que la négociation des droits se ferait peut-être autour d'un syndicat qui serait de ces 12 clubs-là, qui auraient eux la main.
Attends, laisse-moi un doute. T'es en train de dire, enfin, quand je dis te, je veux dire, ça sous-entendrait.
Je le dis.
Que si demain, il y a un accord avec la FIFA, ça veut dire qu'ils acceptent d'agrandir la part des miettes qu'ils laissent, d'après ce qu'elle nous disait.
C'est l'UEFA qui gère ça.
Oui, l'UEFA, mais je veux dire, que les instances décident de, OK, vous avez gagné, on vous donne 50% à la place de 25. Les clubs disent merci beaucoup. Et donc, on est parti vers le truc kafkaïen dont tu viens de nous expliquer. Alors,
moi, je pense
qu'on va peut-être.
Je pense pas que ce truc va voir le jour. Je pense pas que cette Ligue des Champions va voir le jour. voir
moi
le
non
jour.
Non plus là. Parce que c'est pas assez, c'est pas du tout lisible. C'est pas lisible. On a envie dans une saison de voir des matchs aller-retour, même en poule.
Mais oui, parce que j'aime bien l'idée de cette Super League. Ce que j'aime bien moi. Après, je suis contre le principe parce que c'est dissident, etc. Et que j'ai pas un caractère putschiste par définition. Mais j'aime bien l'idée d'avoir 38 matchs au sommet, de choisir une nouvelle équipe, peut-être pas belge. Moi, j'adore le Barça depuis des années. Hein, c'est pas depuis qu'il est champion d'Europe. Et voilà, et tu peux suivre une équipe qui va jouer des matchs au top une fois par semaine, parce que 20 équipes, ça fait 38 matchs, donc 38 saisons. Ça fait que tous les joueurs, il faut pas oublier l'aspect humain de la chose. Ils vont devoir se taper deux championnats, dont un à un niveau, mais alors...
Mais c'est déjà ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont aussi des matchs toutes les semaines, deux matchs par semaine.
Tu joues pas chaque semaine un match en finale de Champions League. Tu joues contre Cluj, joues contre Bruges pour certains.
Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, les matchs de poule, plus personne les regarde. Et c'est ça le problème.
Je pose la question, je te le dis, c'est prouvé.
Les chiffres du diffuseur français RMC des poules de Ligue des Champions, ils sont catastrophiques cette saison parce que plus personne regarde ces matchs. On en a marre de voir des matchs.
Est-ce que cette saison est vraiment le bon, alors qu'il n'y a pas de public dans les stades, c'est des chiffres qui chutent depuis 5-6 ans.
Je suis d'accord avec toi, est-ce qu'il n'y aura pas
overdose de foot?
Mais si,
parce qu'on va devoir prendre un abonnement à vous pour avoir le championnat de Belgique, un abonnement à Canal Plus pour avoir la Ligue des Champions. Ils vont signer un contrat, la nouvelle Super League va signer un contrat avec un autre distributeur.
C'est déjà le cas là.
Ce qui est difficile à admettre, à entendre, c'est qu'on fasse porter le chapeau à ces 12 clubs là pour une dérive qui existe déjà depuis 25 ans.
Ça veut dire qu'il y avait une répartition plus équitable depuis longtemps. C'est vrai.
Merci Seb Blatter, pour la question de savoir, il y a eu hier sur Joan Laporta, le président du Barça. Il a parlé de cette Super League et il a dit...
En plus, attends, enlève-moi un doute aussi. Lui, il est là tout de suite depuis un mois.
Ouais, il vient d'arriver. Ouais.
Tu sais,
il était là avant. Il a dit la Super League européenne s'attaque au football. C'est juste une question d'argent. Il l'a dit. C'est juste une question d'argent. Donc, la Super League, c'est une option. Il y en a d'autres. Il a même sorti l'épouvantail d'un mondial des clubs qui serait bon toute l'année.
Un an sur deux avec la vraie coupe du monde.
Mais enfin, en tout cas, ils sont clairs. C'est pour ça qu'à mon avis, ça présente.
Ils ont tellement besoin d'argent
au bout. C'est que
l'argent attire l'argent. Hein.
Mais alors, 500 millions par saison, c'est énorme. Tu craches pas dessus, franchement.
Pas personne.
J'ai l'impression qu'ils vont, c'était déjà
500 millions sur ton
compte. Oui, c'est ça. Le Real, on va pas dire qu'ils ont besoin d'argent, mais attends.
J'ai l'impression qu'ils vont de plus en plus s'écarter du supporter.
Quoi. Bon, en tout cas,
juste l'année où Bruges rentre en bourse.
C'est peut-être pas une coïncidence, je sais pas, mais il se trouve que dans les clubs les plus endettés,
il y a tous les clubs espagnols, les 12 premiers qui font partie, donc effectivement ils ont besoin d'argent.
On n'a pas évoqué ça.
Le fair play financier aussi, ça leur.
Ah oui, quid du fair play financier.
Mais on parle d'une espèce de régulation des budgets, dans cette Super League où on pourra pas acheter. Désolé pour l'exemple, parce que c'est le plus criant, c'est Mbappé et Neymar dans un mercato à 220 et 180 millions. Ils accepteront pas ça, apparemment.
Je vois pas où est le problème.
Évidemment, c'est génial, mais bon,
Neymar, c'est pas le PSG qui l'a acheté, c'est lui qui s'est acheté tout seul.
C'est vrai. Exactement. Il a ce qui montre qu'il avait vraiment envie de venir. Dans les chiffres, là, j'ai les chiffres sous les yeux des, sous réserve de, qu'ils soient justes, mais les chiffres des dettes. Chelsea, Barcelone, Real, Tottenham, Manchester United, la Juve, l'Inter, Newcastle ensuite, Brighton et l'Atlético Madrid. Voilà le top 10 des clubs européens les plus endettés. Donc on peut comprendre qu'ils aient besoin d'argent, qu'ils doivent être emmerdés, passez-moi l'expression, par ce fair play financier qui les contraint à faire des gesticulations et surtout ennuyé de voir que c'est l'UEFA qui... Ok, l'UEFA organise, mais l'UEFA se réserve la plus grosse part du gâteau.
Et donc, après, ils veulent rendre le foot au peuple. Et...
C'est ça, voilà. C'est assez...
Tu peux citer les 12
Les 12 clubs, c'est 6 clubs anglais, donc Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea,
Arsenal et Tottenham, les trois plus grands clubs espagnols, le Real, le Barça, l'Atlético, et les trois plus grands clubs italiens, l'Inter, la Juve et le Milan. On peut dire sans se tromper que si la Ligue des Champions poursuit, on ne sait jamais, la Ligue des Champions aura un sacré... On va prendre un coup dans la tête parce que là,
comme tu l'as dit, c'est les 40 clubs qui ont gagné les 60 éditions.
Alors j'ai vu des gens qui se réjouissaient.
Mais oui, c'est bien, on dirait que t'as ses chances.
Voilà, qui se réjouissaient en disant, on va pouvoir revoir de Glasgow Rangers, de pouvoir de l'Ajax,
tout ça. Mais jamais.
Mais qu'est-ce que...
En fait, moi, c'est juste ça qui m'embête, c'est les idéalistes qui disent que on va pouvoir revoir des petits clubs. Non, on reverra pas des petits clubs. Il y aura juste les clubs de seconde zone qui ont plus d'argent que les petits clubs et qui vont pouvoir passer comme, je sais pas moi. Valence, des clubs du sub-top européen. Et du coup, c'est juste les autres, ça va découler sur les autres.
Ça aurait dû être la C2 en fait. Mais la C2, ils l'ont même tué parce que les gens qui étaient éliminés de C1 étaient reversés en C2 en cours de saison.
Ça aussi, l'arrêt, le C1, C2, C3, quand ils ont arrêté ça, c'était n'importe quoi. C'était clairement le programme parfait.
Et puis ça donnait la C2, elle donnait. Parce que malgré tout, on en parlait l'autre jour, la FA Cup, ça reste un trophée parce que il y a l'histoire, il y a Wembley, il y a les deux tours, il y a la reine ou le prince qui vient.
Il viendra plus, hein.
Qui vient, voilà.
Celui-là, en tout cas.
C'est le samedi à 13h ou 15h, c'est un moment, c'est la plus vieux trophée au monde.
Tu sais qu'à la BBC, pour parler de ça, la finale de la FA Cup, ça commence à 9h du matin jusqu'à après. C'est toute la journée qui est dédiée à ça.
Mais hormis la FA Cup, moi je me souviens de soirées attendries à regarder la finale de la Coupe de France le samedi soir. Mais à part la FA Cup, il n'y a plus aucune coupe nationale qui ne vaut quoi que ce soit maintenant. En tout cas, ils sont prêts à la laisser complètement de côté parce que parce qu'ils ont que ça, ils préfèrent des clubs qui ont pas les épaules ou la structure, ils préfèrent laisser la coupe de côté et se dire, il vaut mieux finir troisième et être qualifié en Ligue des Champions que remporter
pas le standard non plus.
Non, mais ça a été tué par l'arrêt de la coupe des coupes et le fait que, on veut faire rentrer tout le monde en Coupe des Champions alors qu'on n'est même pas champion. Donc voilà, la situation est compliquée. Pour l'instant, c'est pas arrêté. Moi, il y a plein de questions qui se posent. Un joueur de foot, par exemple, admettons que vous soyez Kevin De Bruyne, par exemple, vous avez signé votre contrat avec Manchester City, vous êtes lié à lui, à Manchester City, puis Manchester dit, maintenant, on joue la Super League.
Pour les juristes.
Mais est-ce qu'il a le droit de sortir de son contrat? Parce que lui, il sait pas ce qui était prévu au départ. Lui, il a peut-être pas envie de, il dit, moi, à choisir, je préfère jouer avec la Belgique retourner à Genk que de plus jamais jouer avec la Belgique.
Comme je l'ai dit, moi, j'y crois pas une seule seconde truc des sélections nationales qui pourront plus sélectionner les joueurs. Et les joueurs sont quasi tous représentés par un syndicat qui s'appelle la FIFPro. Jamais de la vie, ce syndicat, il va laisser Alexander Seferin décider de celui-là va pas jouer en sélection nationale et celui-là oui. Enfin, il faut qu'il arrête de marcher sur la tête, lui.
Il y a aussi des législations propres à chaque pays parce que il y a des contrats de travail qui sont régis par des législations propres à chacun des pays. Tout n'est pas autorisé non plus.
Et alors, pour vous dire que cette nouvelle a entraîné quand même des réactions un petit peu partout. Bon, bien sûr, les joueurs de foot, les supporters, on en a parlé. Mais c'est monté jusqu'au président de la République française. Président de la République française, qui a vraiment que ça à faire en ce moment, Il s'est exprimé en disant.
C'est plus Nicolas Sarkozy.
Il salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Super Ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L'État français appuiera toutes les démarches pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales, qu'elles soient nationales ou européennes.
Quoi qu'il en coûte, c'est ça?
Ouais, voilà. Boris Johnson, lui, a dit que.
Les clubs français, c'est quoi, le Qatar et tout ça?
Ouais, en plus, moi, je suis quasiment sûr que. Paris, c'est sûr qu'ils vont en être, et Marseille, c'est aussi quasiment sûr qu'ils vont en être. Il y a un seul mec qui attend ça, c'est Franck Macourt. Depuis le début, le propriétaire, il attend que ça se passe, cette Super League. Et vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, je pense que d'office, ils seront
invités sans
doute. Parce qu'il y a un modèle américain où, effectivement, on ne monte pas, on ne descend pas.
Exactement.
Emmanuel Macron.
C'est la NBA, quoi.
C'est Angers, Reims, c'est Lorient de Super League.
Ils n'arrivent même pas à rester en Ligue 1.
Il y a une nouvelle qui est tombée à l'AFP, de l'AFP, qui disait ce soir que la Grande-Bretagne n'exclut pas la publication d'une décision du gouvernement pour empêcher la participation et le déroulement de matchs de Super League sur son territoire.
Ah ben voilà,
donc on va avoir d'un côté des législations ou des qui vont vouloir défendre bec et ongles.
Toujours que les guerres mondiales commencent par un détail.
Le modèle le modèle pyramidal entre guillemets parce qu'il a bien, il a pris un coup dans la tête depuis bien longtemps, mais il existe quand même encore des montées, descentes et autres, et de la qualification sur le mérite sportif. Et d'un autre côté, ben on a des clubs qui eux veulent avoir leur part du gâteau normal. Je sais. Et puis comme tu le dis, la FIFA qui malgré tout va pas assister à tout cet échange sans y prendre part et en ayant la menace de plus avoir une Coupe du Monde.
Oui, non, mais en fait moi je suis en train de me demander si même la FIFA va pas mettre un couteau dans le dos à l'UEFA.
En fait,
c'est l'UEFA qui est le problème dans toute cette histoire. La FIFA ils ont rien demandé. C'est Seferin qui a dit moi je vais faire ça, et la FIFA on verra ce qu'ils vont dire. Mais moi ça m'étonnerait pas que la FIFA ils disent écoute, toi tu fais ton truc de ton côté et nous on va faire notre Coupe du Monde et on va toucher nos sous.
Ouais. Et il y avait un seul qui pouvait s'opposer à ça.
Exactement.
Il y a un seul homme. Il y avait un seul homme qui pouvait s'opposer à ça à l'UEFA et on l'a planté. Ouais. C'est Michel. Ouais. Voilà.
Ah, tu l'as vu finalement.
Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Ouais.
Qui ça?
Michel Platini. Numéro,
non.
Numéro 10.
Plus grand.
Lui aussi s'est pris un couteau dans le dos par.
Comment
par, ouais, lui aussi s'est pris un couteau dans le dos par l'UEFA.
Ouais. Enfin, il avait bien pris aussi avant.
Ouais, mais.
Non, pas lui, son fils.
Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein.
Il y a donc pas de club allemand et pas de club français, comme on l'a dit, mais il y a une rumeur
Michel
ce
Platy
soir qui parlait d'un possible ralliement en fin de semaine du Bayern, de Leipzig et de Porto. Moi, j'ai même reçu un tweet, enfin, pas un tweet, message WhatsApp, dans lequel il y avait un extrait de ce qui semblait être un contrat, donc c'était en anglais, qui ressemblait vraiment à un contrat. Qui aurait été préparé par un cabinet d'avocats, dans lequel on disait que le Paris Saint-Germain, le Bayern et Dortmund recevraient une invitation dans les 14 ou les 30 jours qui suivraient la déclaration de création de la Super League.
Parce que ça, pour le coup, le Bayern, c'est vraiment un club que Florentino Pérez veut dans cette ligue.
Ouais.
Paris aussi, j'imagine, parce que Paris ramène beaucoup d'argent, mais le Bayern, il en a besoin pour faire cette ligue.
Et c'est ce qui est d'ailleurs étonnant. Je sais pas pourquoi le Bayern Munich s'est pas positionné. Écoutez, il y a peut-être une... ils défendent un modèle, c'est peut-être
ouais,
les moins...
C'est ça. Je pense que c'est uniquement pour
les
ça.
Les moins
c'est...
cyniques de tous,
ouais,
les Allemands. Et le club est détenu par les supporters. On le disait, on vantait encore leur mérite la semaine dernière en disant que c'était un des seuls clubs en Europe à avoir des ex-grands joueurs de la maison au poste
peut-être
important.
Peut-être que les anciens joueurs se disent c'est quand même beaucoup, beaucoup de matchs sur une année.
Au final, pas tant que ça, parce que du coup, ils joueront plus la Ligue des Champions et ils jouent moins de matchs dans cette Super League que dans
la Ligue
des Champions.
Et ils joueraient plus le championnat, non.
En Ligue des Champions, c'est...
Bah, ils en ont 6, et puis après ils en ont 4, ils ont 3 fois plus, hein.
Ouais, en fait, oui.
Non, mais c'est...
Je dis une bêtise.
Il y a plus de matchs télévisés, mais c'est énorme.
Sachez en tout cas que Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, prend la place à effet immédiat d'André Agnelli au comité exécutif de l'UEFA.
Hier, ils ont fait une réunion Zoom, l'UEFA, juste après cette décision, tout ça. Et donc, il y a 246 clubs qui sont représentés dans cette réunion. Il y en a 12 qui ont pas ouvert l'appel, donc les 12 clubs. Il y en a 11, du coup. Agnelli a ouvert l'appel, sachant qu'il est président de l'OCA.
De l'OCA, oui.
Il a pas parlé pendant toute la réunion. Il a juste ouvert le Zoom et il s'est barré après.
Waouh. Et ce qui était étonnant, c'est que l'OCA est passé au-dessus de son président, puisqu'il y a eu une déclaration hier, un communiqué qui disait que les 246 clubs n'appuyaient pas la création des 12, donc même à l'intérieur du syndicat des clubs.
La semaine prochaine, on sera ici en disant tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, c'est ça. Non, mais ça a vraiment été, une petite onde de choc toute la journée. Moi, j'ai lu c'était assez sympa aussi à lire, mais des éditos, notamment l'édito de Duluc dans l'équipe, que j'aime beaucoup.
Ouais, il est dur, hein.
Ouais. Lui, c'est un tenant du football à l'ancienne. Il a intitulé son édito Les Traîtres, en disant s'ils vont au bout de leur projet, on ne leur pardonnera jamais, et s'ils renoncent non plus. Les 12 clubs qui ont dévoilé hier leur projet de Super League européenne resteront pour longtemps ceux qui ont choisi de trahir un idéal partagé. Cette infamie n'est pas seulement la trahison de l'idée portée par ce journal en décembre 54, mais aussi celle de tous ceux qui ont aimé le football européen depuis toujours et qui ont aidé à le construire. C'est vrai qu'il y a quand même du côté de... quand on est de ce côté-ci et pas des 12 clubs qui ont décidé de partir, un sentiment de frustration en se disant que si le Real Madrid
a gagné 13 coupes. Ou... Bon, alors bien sûr, il le doit à lui. Mais pour gagner ces coupes, il a bien fallu avoir des adversaires qui étaient une fois l'Eintracht Francfort, une fois Saint-Mirren, une fois je ne sais qui d'autre. Et donc, on ne peut pas décemment enfin, voilà, se laver les mains de l'histoire du football
européen.
Mais
c'est européen, vrai que, pour le coup, historiquement, c'est un gros coup. Quoi. Enfin, de plus entendre cette musique, de plus voir ce ballon avec les étoiles. Enfin, c'est quand même quelque chose auquel on a
on
tous habitué, grandi
bien
avec.
Sûr,
quoi. Enfin,
ouais. Je veux dire, c'est...
Non. Toi.
Non mais ça fait 30 ans, mais t'as raison, ça fait 30 ans que ça c'est, ça fait 30 ans, ça fait à peu près 20 ans que je crois que le...
Moi j'ai connu des ballons cousus en cuir,
des poteaux carrés. Ne parle pas des poteaux carrés. mais c'est vrai que ça fait à peu près 20 ans qu'il y a cette formule qui... Bah, moi je trouve qu'elle fonctionnait assez bien, alors peut-être que si on en avait une autre, on trouverait avec le temps qu'elle fonctionne bien aussi et on s'y habituerait, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, telle qu'elle est maintenant, avec cette phase de poule, dans laquelle il peut se passer quand même des choses, dans lesquelles il y a quand même des voyages intéressants et amusants, ça fait partie de, disons, du folklore. Vous allez vous taper le match à Mol 2 ou vous allez vous taper le match au fond de la Turquie ou en Ukraine sous moins 30. Bon, c'est vrai que c'est fatigant, mais ça fait partie, c'est le football européen. Est-ce que s'il y a une uniformisation totale, que vous jouez à chaque fois Chelsea, Liverpool, Manchester United, est-ce qu'on va pas se lasser?
Écoutez, quelque chose pour rebondir sur ce que Didier tout à l'heure disait, il parlait du club de Bruges en Ligue des Champions. J'ai regardé, il y a que deux équipes de Belges qui sont sorties des poules de Ligue des Champions dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Enfin, l'histoire moderne
ouais.
C'est Anderlecht en 2000-2001 et la Gantoise en 2015-2016. Deux quand même, c'est très peu, hein.
Oui, mais enfin, en même temps, on n'a pas quatre représentants par
an.
Donc, tu vois, tout est... À la limite, tu sais quoi, je pensais à lui maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais ça aurait été intéressant d'avoir, on aurait peut-être dû rebondir là-dessus, d'avoir l'avis d'un gars comme Paul Van Imst, par exemple, ou des gens, des vrais pionniers du foot, des arbres du savoir, j'ai envie, au niveau du foot, parce qu'on nous dit, oui, c'est un coup de poignard au foot, machin. Ce serait bien d'avoir l'avis d'un gars qui jouait encore pour l'honneur et pas que pour le pognon, même si y en a qui ont vécu de ça, mais c'est plus comme aujourd'hui, quoi.
Je crois que Gilles Van Binst, il a dit quand il a gagné la Coupe d'Europe à Paris contre le Stade Vienne, je crois qu'ils ont reçu un lave-vaisselle ou un truc dans ce goût-là.
Je sais pas si ça doit les faire rêver, mais je serais curieux d'avoir leur avis là-dessus aujourd'hui.
Ah, je crois qu'on a changé de dimension complètement. Et
je me demande, essayer d'avoir
Paul Van Imst, s'il nous écoute.
Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Ce serait sympa.
À fond.
Très sympa.
Johan Cruyff, désolé, mais il pourra être là.
Non, je parle pas assez bien le néerlandais. Je vous propose qu'on passe maintenant, on va arrêter là, il nous reste plus qu'un quart d'heure, on a encore des choses à traiter, on va faire un petit tour d'Europe des clubs et on va commencer, puis surtout des clubs, surtout des diables, on va commencer par l'Angleterre. Il y avait une journée de Premier League qui n'était pas complète parce qu'on jouait les demi-finales de la FA Cup, cette magnifique compétition qui restera magnifique quoi qu'il arrive. Et on n'aura malheureusement pas droit à un duel de diables en finale. On espérait pouvoir avoir Manchester City, Leicester, avec Manchester City et Kevin De Bruyne. Et de l'autre côté, à Leicester, les trois diables rouges, Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Pratt. Et malheureusement... le Manchester City de Kevin De Bruyne s'est fait éliminer, et plus grave encore, parce que ça, à la limite, Manchester a éliminé en demi-finale de Coupe de FA Cup, on s'en fout un peu.
Le quadruplé quand même.
Oui, bah, tant pis pour eux, mais le plus grave surtout, c'est surtout la blessure à la cheville de Kevin De Bruyne. Alors je vais tout de suite vous dire une chose, je vais être tout à fait honnête.
C'est inquiétant.
Moi, s'il peut être absent 3 semaines et être au top dans un mois, c'est parfait. Bon, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain et que dans l'intervalle,
Paris, c'est quand même
un peu de chance cette fois.
C'est... Mais bon, il la mérite, hein. Mais je pense qu'il y a un marabout qui travaille derrière. Je sais pas quoi. Mais...
Les ventes de ski et Niabri au match d'avant. Là, Kevin De Bruyne.
Comme ça, un peu de vin.
Ah, tu sais pas que c'était des manteaux de fourrure
tout de suite. C'est quelques semaines. Alors ils ont communiqué aujourd'hui, c'était pas très clair. Ils ont déjà annoncé en tout cas son indisponibilité pour le prochain match, ainsi que pour je crois pour les deux prochains matchs, mais ils sont pas allés très très loin, ils savent pas encore si ça va être une question de semaine,
même si de ça a eu.
C'est pas du tout rassurant quand même quand un joueur sort sans choc, il a rien eu, il s'est rien passé et il est sorti directement quoi. Et il marchait dessus en plus, donc ça fait peur. peur.
Très bizarre.
Moi, j'ai lu quelque part qu'on pensait aux ligaments. Maintenant, je pense aussi que dans l'esprit d'un Guardiola, indépendamment de l'affection qu'il a pour Kevin De Bruyne et un petit peu style Zizou avec Eden, il va le surprotéger. Je crois que aujourd'hui, il va s'arrêter là pour le championnat parce que probablement que c'est plié.
Oui, c'est
et que quoi qu'il arrive, il va essayer de faire en sorte et prier, mettre des, allumer des cierges pour qu'il soit proche pour le choc contre le PSG, malheureusement.
Ah, je crois que pour le choc pour le PSG,
dans
9 jours, il n'y a aucune chance.
D'après pour le retour.
Et le retour, c'est qu'une semaine après, c'est dans.
Moi, je le vois
c'est
bien.
C'est le 4. Prendre, hein.
Si jamais
c'est
non, pas mais... trop grave, je le vois bien le mettre
très honnêtement,
le bord pour le faire rentrer un quart.
Très honnêtement, je me suis posé la question. J'ai
le
aucun
Champions League, c'est clairement l'objectif absolu. Hein,
ouais, mais pour Kevin De Bruyne, est-ce que entre choisir entre Manchester City et la Ligue des Champions et l'Euro avec la Belgique, sachant que Eden n'est peut-être pas au top.
Il a déjà signé de toute façon.
Ouais.
Il est quand même beaucoup plus important, enfin, je vais faire un peu de chauvinisme, mais il est beaucoup plus important dans notre équipe nationale que, certes, il est fondamental à Manchester City, mais City peut se reposer sur d'autres joueurs de très haut niveau, alors que nous, dans ce secteur-là.
C'est pour le match que j'ai regardé ce week-end. Hein.
Ouais,
j'ai vu que la deuxième mi-temps, je me suis dit, mon Dieu, où il est au repos, où il a une carte jaune, où il est blessé, j'ai été voir et j'ai vu qu'il s'était blessé. Mais City était fantomatique en deuxième mi-temps, de ce que moi j'ai vu. C'est inquiétant. Hein. Derrière, c'était une passoire, un gruyère, entendons-nous. Mmh. Hein, on est quand même dans le top européen. Mais je me suis dit, sans Kevin, qui apporte toujours... Parce qu'à tous les étages, il est important.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a un travail défensif incroyable.
En tout cas,
il y a une relance juste
magnifique. Guardiola n'avait pas l'air tout à fait serein à l'idée de s'en passer pendant quelques semaines. On ne sait pas combien de temps exactement. Roberto Martinez aussi. En tout cas, on ne va pas spéculer plus que ça parce qu'on n'en sait rien. Mais il semblerait que ce soit au moins quelques semaines. Donc, disons au moins jusqu'à... On est le 19... Au moins jusqu'à la fin du mois, ça c'est sûr, et peut-être aussi la première semaine. Voilà. Écoutez, on lui souhaite
peut-être pour le retour.
Pour le retour le 4, il y a pas de problème. Hein, je veux dire,
c'est d'abord à Paris ou d'abord.
C'est d'abord à Paris le retour à Manchester. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'il y aura pas de public en Angleterre. C'est ça. Hein, il y aura quand même une égalité, une justice.
Déjà, ils doivent pas aller jouer au Portugal.
Voilà. Mais non, moi en tant que support,
on est allé battre Dynamo, je ne sais plus qui, devant 30 000 personnes.
C'est vrai.
Sans problème. Hein. Mais bon, tout le monde ne s'appelle pas Bruges, évidemment.
Absolument. Mais non, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je serais pour que les meilleurs joueurs soient là contre nous. Parce que honnêtement, avant, je m'araboutais bien et j'aurais bien été content qu'il y ait un ou deux soient absents. Quand je vois Mbappé, Neymar et le reste de l'équipe, comme ils peuvent jouer quand ils sont en confiance, je me dis pourquoi pas. Et puis.
Et Navas.
Et puis voilà. Et Navas. Ouais. Donc voilà. On reste en première ligue. Le deuxième match de la deuxième demi-finale, par contre, elle a souri au Diable Rouge puisque les Leicester s'est qualifié. Donc les trois Diables seront en finale le 15 mai face à Chelsea. En première ligue, on a appris ce matin le limogeage de José Mourinho. Pourtant, c'était que sa deuxième saison. Habituellement, c'est
17
au
mois.
17 mois, il aura tenu. 17 mois, et on a appris le montant de ses indemnités qui serait
30 millions de livres.
30 millions de livres. Bravo, José.
Pourquoi est-ce qu'il est resté autant de temps?
Bravo, José, t'es un champion, t'es vraiment le meilleur.
Il gagne plus en s'en allant qu'en restant, en fait.
Il y a une fausse nouvelle qui est parue ce matin qui aurait donné beaucoup, beaucoup de prestige.
De panache,
au limogeage de Mourinho, qui était que pour s'opposer à la décision de Tottenham de rejoindre la Super League, Mourinho aurait refusé d'entraîner ses joueurs le matin. On a lu ça, on s'est dit c'est super, puis Blaise a douché nos espoirs en disant non, c'est un fake. Donc non, il a été vraiment viré pour ses mauvais résultats. Écoutez, maintenant je sais plus c'est quoi son avenir à lui, hein. Il a beaucoup gagné, mais il s'est également fait virer de quasiment tous les plus grands clubs du monde. Moi, je le vois bien finir avec la sélection, peut-être.
Ou un petit retour à Porto.
Ouais, c'est ça, pour montrer à tout le monde.
Mais en tout cas, oui, je pense que les grands clubs européens...
Il y a la MLS et la Chine encore.
Ouais. Ouais. La Chine, ils prennent plus, mais la MLS, je pense.
La MLS,
je crois que les gens, et c'est ça que moi je lui reprochais, je t'avais dit, avec le matériel dont ils disposent, proposer le foot qu'ils proposent, c'était malheureux. C'est comme si demain le PSG se met à jouer défensif avec des joueurs comme Mbappé, Neymar, c'est triste.
C'est gâché, non, je suis d'accord.
C'est vrai que fait, quand même.
Lui, c'est sa philosophie. Lui, c'est sa philosophie de. Non, c'est pas pareil. Nous, on appuie sur les.
T'es fou, tu clashes le chef.
Non, mais on insiste sur les qualités de nos joueurs. Ouais. Les qualités des joueurs, c'était. Évidemment, la vitesse. Voilà. En France, on va faire un petit détour d'une minute en France. Jérémy Decoux était de retour après sa suspension et il a marqué, il a ouvert le score pour son équipe de Rennes qu'il a emporté 3-0 face à Angers.
Il fait une très bonne fin de saison. Hein.
Il a mis le temps, mais c'est normal. C'est seulement son deuxième but, mais il est très bon depuis quelques semaines.
Mignolet, il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il a fait une très belle saison.
Et la Ligue 1, et on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais on aura sûrement le temps d'en reparler les prochaines semaines parce qu'elle est plus excitante que jamais. Le leader lillois a concédé le nul 1-1 face à Montpellier, alors que les trois poursuivants, Paris, Lyon, Monaco, ont tous gagné, ce qui fait qu'au classement, les quatre équipes de tête sont en 3 points, alors qu'il ne reste que 5 matchs de championnat.
Et qui est premier ?
Lille.
Toujours.
Lille, toujours premier.
Lille, Paris,
Paris, Monaco et Lyon.
Monaco fait vraiment très peur.
Ouais.
Ils sont à combien de points ? Combien de matchs, pardon, 33 aussi ?
Oui, il reste 5 matchs à tout le monde. 5 matchs à tout le monde. Il y a Lille-Lyon la semaine prochaine qui va sans doute en mettre un.
Un out.
Enfin, en tout cas, si c'est Lyon. Allez, je vous propose qu'on passe à la Formule 1 pour les 7 dernières minutes.
En vitesse. Hein.
En vitesse, voilà. La Formule 1, c'était la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1. La course se déroulait à Imola et on a eu droit à un très très beau Grand Prix. Sur la grille de départ, la pole position avait été glanée par
Lewis Hamilton,
une fois n'est pas coutume.
Lewis Hamilton.
Il est déjà Sir
cet été.
Sir Lewis Hamilton. Verstappen, son plus grand rival, n'était que troisième puisque Pérez avait réussi à s'intercaler.
Pérez, qui est le coéquipier
de
Red Bull,
de Verstappen.
Ce qui est une grande première parce que c'est pas souvent qu'à la régulière, Verstappen a été devancé par son coéquipier aux essais. Ouais.
Mais dans des conditions climatiques un petit peu humides, changeantes, il y a eu donc de la stratégie, notamment au niveau des trains de pneus. Mais en tout cas, le départ du Grand Prix a été canon, et notamment pour Verstappen. Je sais que t'es pas forcément d'accord, mais tu le seras quand même. Il a réussi au premier virage.
Ah, exceptionnel.
Exceptionnel.
Après, c'est ce que je te disais.
Oui, tu me disais.
Il a.
Hamilton a été
très smart. Ouais, pour le même prix, il veut rester sur la piste.
Ils étaient tous les deux dehors.
Ils pouvaient.
Voilà. Et je comprends parfaitement qu'il n'y ait pas eu de sanction parce que ça reste une course et voilà. Mais et je vais pas dire que Max Verstappen a voulu tricher, loin de là. Mais voilà, s'il y avait un accrochage, il aurait été responsable. Il n'y avait pas la place nécessairement pour les deux. Il n'était pas clairement devant Lewis. Et Lewis Hamilton, il a donné le coup de volant nécessaire. Il est allé dans le gravier. Il a perdu une partie
de
sa voiture. Ce qui n'a pas trop endommagé puisqu'il a réussi à tourner dans des temps tout à fait corrects. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'était un très, très beau Grand Prix. Imola, sinistre mémoire parce que ça fait maintenant 27 ans que Ayrton Senna s'y est tué, ainsi que Roland Ratzenberger, parce qu'on parle toujours
Senna,
de la mort de Senna, mais aussi Ratzenberger et l'accident de Rubens Barrichello la veille aux essais dont il s'était sorti miraculeusement. Et en fait, il y a eu aussi un très gros crash hier,
merci,
sans problème, entre deux pilotes qui sont sur le payroll de la même firme, en fait.
Ouais. C'est et alors, ce qui était, tu vas nous le raconter, mais moi, ce qui était, je sais pas comment toi tu l'as vécu, tu vois, Blaise aussi, si. On regardait, il y avait des ralentis, parce que juste avant, en fait, Hamilton s'est sorti tout seul de la piste en essayant de remonter, puis comme on l'a dit, la piste était sèche sur la trajectoire et bien sûr trempée sur le reste de la piste, et comme ils avaient fait des changements de pneus pour pouvoir s'adapter aux conditions, il s'est retrouvé à un moment à vouloir dépasser Russell et il est parti dans le gravier. Il a fait une remarquable manœuvre qui aurait pu être un peu dangereuse parce qu'il est quand même revenu sur la piste en marche arrière, mais bravo. Et donc on était là-dessus, et puis le réalisateur a switché sur le crash qui venait d'avoir lieu, et là moi j'ai vu la courbe, Tamburello, c'est là où Senna s'est tué justement. On a vu des milliers de débris partout. Et là, moi, pendant un instant, je me suis un peu glacé en me disant, oh non, j'espère que ça va pas me ramener justement à ce dimanche de
funeste
mémoire. Et donc, vas-y, pardon, de nous raconter que
il faut savoir que Tamburello à Imola, c'est sinon le plus rapide, un des virages les plus rapides de toute la saison de Formule 1. Et donc, il y avait clairement... Alors, c'était très comique, parce que Russell a voulu dépasser Bottas. Bottas, alors je disais, ils sont sur le même payroll, parce que Russell roule chez Williams, mais il est sous contrat Mercedes. Donc, c'est probablement le successeur de Bottas dans le baquet de la Mercedes, de Toto Wolff. Et donc, il est dans l'aspiration de Bottas dans la ligne droite qui mène à Tamburello. Il lui fait l'extérieur. Et clairement, il n'y a pas vraiment de la place pour deux voitures à cet endroit-là. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a Bottas a voulu défendre sa place, qui a obligé Russell d'aller un petit peu sur sa droite. Il a mis la roue arrière
là
droite,
où il fallait pas, voilà.
Ou sur la ligne blanche, ou carrément dans l'herbe. Il est parti en toupie, il a tapé forcément
Bottas.
Et... Bottas qui s'est retrouvé passager de la pluie, comme on dit au Cinoche. Ouais. Ils se sont retrouvés tous les deux dans le bac, et c'est vrai que c'était très très spectaculaire, que ça aurait pu être très dangereux. Alors après, l'anecdote, c'est que on voit Russell sortir de la voiture, qui va vers Bottas, et j'entends Gaëtan Vigneron, qui est le commentateur de la RTB, qui dit « Ah ben quel beau geste, il est allé prendre des nouvelles de Valtteri Bottas, et puis le soir, je vais voir sur... Et en fait, on voit que quand il arrive près de la voiture, il y a Bottas qui lui fait un très beau doigt d'honneur,
ouais.
Et lui qui lui donne une tape sur le casque, parce qu'ils étaient tous les deux pas d'accord. »
C'était pas un sport de gentleman.
Alors,
bah justement, il y a eu une histoire de gentleman agreement, parce que Russell a dit « Il y a un gentleman agreement qui veut que quand vous avez ouvert votre DRS et que vous allez dépasser quelqu'un, le DRS, on le rappelle, c'est cette surcharge de puissance qui permet...
C'est pas une surcharge de puissance, l'aileron s'abaisse, et donc tu as beaucoup moins d'appui, et donc tu gagnes en vitesse.
Voilà, et donc il dit, quand on a ouvert son DRS, qu'on dépasse, le gentleman agreement, c'est justement de ne pas défendre, de ne pas se déplacer.
Jamais de
la vie. De ne pas se dépasser. Enfin, pardon, de ne pas changer de trajectoire, excuse-moi.
Non, il n'a pas changé de trajectoire.
Alors lui, il dit qu'il y a un petit peu, bon, il reconnaît un peu Russell que lui-même...
Il s'est excusé ce soir-là, il a mis un truc sur son post Instagram en disant qu'il avait dit un peu, clairement.
Parce que tu vois les caméras, il y a suffisamment de caméras embarquées.
En tout cas, il y a eu ce crash qui a fait qui a causé une interruption longue de la course, ce qui a permis peut-être aussi qui a permis au paquet de se remettre ensemble. Et Lewis Hamilton s'est alors lancé dans une remontée qui a été magnifique.
Dans son excursion dans le gravier, il a perdu le nez de sa voiture, donc il a dû rentrer. Il est reparti 9e, le couteau entre les dents. Il a bénéficié d'une erreur dans le tour de chauffe de Tsunoda qui roule sur AlphaTauri et donc il avait gagné une place et il est remonté à la deuxième place.
Il y a eu une superbe bataille avec Lando Norris qui va être sûrement son successeur dans les prochaines années, hein, ce pilote britannique.
Grand pilote. Et
il est resté un petit peu court malheureusement, à une vingtaine de secondes de Verstappen.
Qui a marché sur l'eau.
Classement du champion.